Salut à toutes et à tous, nous sommes le 5 avril 2020 et rien ne va plus. Les gens ont décidé que le beau temps c'était plus important que le confinement. Et je ne sais pas vous, mais vu qu'il n'y a jamais de fumée sans couvre-feu, on risque de finir menotté au radiateur par Castaner pour nous empêcher de sortir. On le dira jamais assez, mais restez chez vous. En attendant, s'éclate! Eh oui, il faut rester à la maison. Et alors, grâce à ça, justement, ça nous permet d'avoir une équipe le dimanche soir, n'est-ce pas? Et on a avec nous Aki. Comment vas-tu, Aki?
Salut, ça va, ça va.
Ça va, bonne semaine.
Oui,
on t'entend pas très fort encore.
À la pharmacie.
C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais. Bah, rien, j'avais plus d'aspirine et j'ai cru que j'allais la tuer, la pharmacienne, elle voulait pas m'en donner.
Ah
vous
bon
savez,
ah oui
avec le Covid-19, mais je m'en bats les couilles en fait, moi c'est pour mes migraines en fait l'aspirine, donc donne-le-moi.
Ah oui, c'est vrai qu'ils font attention à ça, à la distribution d'aspirine et tout ça quoi.
Etc. Mais bon, elle me l'a quand même donné, hein. De toute façon je ne lui donnais pas trop le choix, c'est pas cette petite fenêtre en plexi qui allait m'arrêter.
C'est ça.
Mais voilà, Aki, c'était mon épopée.
Elle était déterminée à la défoncer si jamais elle lui donnait pas d'aspirine, donc voilà. Parfait. Attends, c'est Rocher qui les avait appelés, car pas de migraine, pas d'excuse. Mais qui est con, ce Draxas? Bon, sinon, on a Chagara avec nous. Comment vas-tu, Chagara?
Bonsoir. Eh bien, moi, ça va bien.
T'as passé une bonne semaine de glandouille?
Bah ouais, mais c'est fini, faut que je retourne bosser lundi.
Oh. Dans l'enfer du travail.
C'est ça, l'enfer du Covid.
L'enfer du Covid.
Priez pour moi.
Ouais, mais surtout, priez pour moi. Parce que toi, si tu l'attrapes, tu vas être vivante. Mais si tu me le refiles, moi, je suis mort. Hein. C'est toi qui l'as dit. Donc.
Ça t'arrange tellement.
Qu'est-ce qui m'arrange? Que je meure?
De rester confiné. Gentiment. Pendant que tu te fais livrer tes courses.
Pas plus que ça. J'avoue que ça, c'est bien. De pas avoir à faire les courses. Parce que d'habitude, c'est moi qui les faisais. Donc, le confinement, au moins, a rapporté cette égalité dans notre couple.
Mais je vais pas bosser et faire les courses, je t'assure.
Ah merde. Donc, du coup, tu vas me laisser aller faire les courses?
Ouais, ça va aller, tu vas survivre,
merde.
Je suis sûr.
Ok, bah alors faisons ça. Et on a aussi Rusher, donc monsieur de chatroom qui est là ce soir. Comment vas-tu, Rusher?
Oui, salut, ça va très bien. Ça va
oui,
très bien.
Salut.
On a fait les délinquants l'autre jour, on est sortis pour aller faire des courses à deux.
Oh mon Dieu.
Oui, c'est vrai que normalement on ne doit pas faire des courses à deux.
Ouais, mais j'en ai un peu marre de porter deux sacs qui pèsent 15 tonnes.
Bon, étonnamment, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient deux, hein.
Oui, c'est sûr, mais c'est pas parce qu'ils sont nombreux à être fous qu'ils...
Bah, c'est ce que je lui ai dit, mais il voulait
pas y aller tout seul. C'est la première fois qu'on sort à deux.
Oh, c'est la première fois.
Monsieur l'agent.
Ça vous rendait pas compte.
Monsieur l'agent, c'est la première fois que j'ai pas mon attestation.
Mais nous, il n'y a pas les gens dans notre coin. Ils doivent être en centre-ville, je pense.
Ah, évidemment. Bon, le sommaire de l'émission. On aura donc notre première partie de revue de presse. Hein. On aura, alors non pas un Askip, mais je l'avais promis la semaine dernière, donc un confiné, confini ou les deux. On aura un Les Vrais Sachs. On aura notre partie 2 de la revue de presse. Et la Minute Aubergine, l'émission sera peut-être un poil plus courte que les autres fois, puisque bah, déjà Tilik n'est pas là, donc ça fait un intervenant en moins. Et de deux en ce moment, c'est très difficile de trouver des news qui soient un peu what the fuck sans nous mettre la tête au fond du seau. Donc voilà. Sur ce, je vous propose que, sans tarder, hein, on attaque tout de suite avec la revue de presse. Et justement, confinement oblige, on ne doit pas sortir de chez soi, mais tous les pays du monde ne font pas respecter le confinement de la même façon, figurez-vous. Il y a les robots habituels, mais ça va jusqu'aux menaces de mort dans certains pays. Donc on va faire un petit peu le tour du monde.
Bah, la semaine dernière, tu nous avais parlé des coups de bâton.
Oui, c'est ça. Mais justement, et vous me direz ce que vous pensez de ces règles-là. Est-ce que c'est le truc qu'il faudrait appliquer aux Parisiens qui sortent toute la journée en ce moment parce qu'il fait beau, ou du petit vieux qui se promène sur la promenade des Anglais à Nice en disant « Oh, bah, ça fait un peu d'adrénaline de sortir alors qu'on n'a pas le droit. » Voilà. Du coup... avec la pandémie, donc, la moitié de la population mondiale doit appliquer des mesures de confinement. Hein. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. L'Espagne, qui est un des pays les plus touchés, eux, ils font appel à l'armée. Voilà, Donc, ouais, c'est pas compliqué. La décision de mettre l'armée à contribution, c'est même le véritable fer de lance contre l'épidémie, hein, transport de défunts, ceux qui s'en occupent, construction d'hôpitaux, tout ça, machin. Mais aussi pour s'assurer du respect du confinement. Voilà, comme il y a un manque de policiers sur le territoire, et ben on a déployé l'armée pour dire « Ah bah non, vous restez chez vous ». Et donc eux-mêmes ont le droit de forcer les gens à rester chez eux, quoi. Donc l'armée, ça peut être une solution. Je sais pas ce que vous vous en pensez.
C'est un peu plus intimidant que la police municipale, quoi.
Ah oui, ça, je pense que c'est un peu plus intermittent que... C'est un peu plus intimidant, pardon, que la police municipale, ça c'est clair. Toi, Chac, t'enverrais l'armée aussi ou pas?
Ouais, quand on n'a plus le choix, on n'a plus le choix. Hein.
Non, la guerre comme à la guerre, hein. Il a dit c'était la guerre.
Bon, c'est un peu dommage pour les pauvres soldats qui n'ont pas le droit de dire non.
Oui, c'est vrai. Eux n'ont pas le droit de dire non.
Ils ont signé, ils ont signé.
Ils ont signé, c'est
vrai. Les touches non plus, hein. Ils n'ont pas le droit de dire non, normalement.
Normalement, ils n'ont pas le droit. Mais...
Moins comme médecin, etc. Hein.
C'est vrai. Mais
ouais, ils ont un peu le droit de retrait, quand même.
Ils ont pas tellement, en fait.
Ils peuvent prendre des congés, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Ils les acceptent, quoi.
Et ils acceptent. Bon, sinon en Tunisie, il y a des robots. Ouais. Voilà, la Tunisie est confinée depuis le 22 mars. Donc ils viennent d'annoncer la prolongation jusqu'au 15 avril mini. Hein. Et là, en fait, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté la semaine dernière dans les rues de Tunis. Bah ouais, c'est comme
bien.
Ça. Hein. Bah ouais. Parce que comme elles ont plus de sources de revenus, elles préfèrent retourner travailler malgré les risques. Alors c'est sûr que c'est nous, on a le chômage partiel, tout ça machin, mais là-bas ça marche pas comme ça. C'est bah vous restez chez vous, et puis bah tant pis si vous gagnez pas d'argent. Voilà, ouais, c'est ça.
Comme aux États-Unis en fait.
Exactement. Donc pour faire respecter le confinement et limiter les contacts entre les forces de l'ordre et les habitants, le pays a recours à des robots. Et en fait c'est un peu tu sais, comme des robots des mineurs. Il y a des caméras et des haut-parleurs, et ça permet de s'adresser directement aux contrevenants en fait, voilà. Donc,
ouais, un peu comme les drones
chez vous.
C'est ça.
Comme les drones en France, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, il y a une vidéo qui circule d'ailleurs sur Internet où on voit un mec qui est sorti acheter du tabac et qui se fait engueuler par un robot qui lui dit « Vous n'avez pas le droit, vous devez rentrer chez vous » et tout ça. Après, c'est vrai que le robot ne fait pas grand-chose. Il n'est pas armé de mitraillettes et tout ça, donc c'est pas... Enfin voilà, à part te faire engueuler...
Il y a un taser dessus.
Ouais, c'est ça. Un Dalek. En Chine, il y avait les drones, hein, ça on s'en rappelle. Les drones qui s'occupaient de venir vous rappeler que vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous, qui prenaient votre température, tout ça. Bon, ok. Ils vous obligent aussi à mettre.
Température, oui, c'est vrai.
Ouais, ils vous obligent aussi à mettre votre masque. Et le truc, c'est comme ils sont connectés, tu sais, à la reconnaissance faciale, au crédit social chinois. Bah, du coup, si vous le faites pas, ben vous perdez du crédit social. Donc voilà une façon de. Bah de vous retrouver après confinement à plus avoir le droit de prendre le train parce que votre note sociale a diminué, à payer plus cher les transports en commun ou ce genre de trucs, quoi. Donc ça dissuade. Aux Philippines, c'est...
Ce système, il peut avoir une faille si tout le monde baisse sa note sociale. Plus personne ne peut prendre le train, plus personne peut... Si tu peux mettre un pays en faillite, en fait.
Ouais, mais sauf qu'en fait, tu sais, les Chinois, ils sont plutôt disciplinés sur ça.
Ouais.
Donc, ouais.
Ils n'ont pas trop le choix, en fait.
Ouais.
C'est un pays communiste, tu sais, et là-bas...
Ça file droit.
Ça file droit. Oui. Donc, culture de la peur aux Philippines, hein. Voilà, parce que bon, il n'en est plus à une polémique près, mais le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a trouvé un moyen radical de stopper l'épidémie de Covid-19. Voilà. Alors que le pays a recensé 96 décès et 2311 cas confirmés. Tous au cours des trois dernières semaines, le président a annoncé dans une intervention télévisée qu'il autorisait la police à tirer et tuer ceux qui ne respectent pas le confinement.
Ah oui, voilà. D'accord.
Donc là, au moins, c'est direct. Vous êtes chez vous, votre
Chine,
attestation,
pas final, hein.
Ok. Ok, bim. Tu vois, voilà. Ça, c'est au moins, c'est direct. Derrière cette sortie, le président philippin vise essentiellement les trafiquants de drogue. Hein. Puisqu'il précise dans son allocution ses ordres donc à la police et à l'armée, s'il y a des troubles et qu'il y a des possibilités qu'il riposte avec un risque pour nos vies, tuez-les par balles. Voilà, bon, il fait pas, c'est pas l'ensemble de la population en fait, mais c'est plutôt tous les trafiquants de drogue, les mecs qui se trimballent avec des armes et tout ça. S'ils respectent pas le confinement et qu'ils sont armés, vous pouvez les tuer. Voilà, voilà. Donc c'est... Je vous avoue que moi, avec des mesures comme ça, je resterai chez moi. Hein. Même si je trafique pas de drogue, je réfléchirai à deux fois avant d'aller faire des courses en me disant « Putain, est-ce que j'ai bien coché la bonne case sur l'attestation ?» sinon, c'est un coup à finir avec une balle entre les deux yeux. Enfin voilà, donc petit tour du monde, des mesures pour faire respecter le confinement aux gens. Comme quoi, finalement, chez nous, hein, c'est quand même vachement plus cool. Et bientôt, on n'aura plus qu'un QR code sur un téléphone. Donc, c'est quand même un peu la fête à la saucisse. Chac, tu vas nous parler toi aussi de confinement.
Bah ouais, il y a un peu que ça hein, comme news en ce moment, donc c'est pas évident. J'ai choisi quand même ce qui était un peu plus... qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi.
Ouais.
Donc là, je vais parler du lac. Un lac britannique qui est situé dans le comté de Derbyshire, près de... Alors la ville, c'est Buxton. Et donc je vais vous parler de ce lac qui normalement a une eau turquoise, il est vraiment très connu pour ça et les touristes adorent aller se balader auprès de ce lac avec une eau superbe. Et ben pour dissuader les gens, pour dissuader ces touristes de venir observer et s'agglutiner tous autour de ce petit lac, le gouvernement a décidé de le teindre en noir.
What? La mer noire.
C'est une solution.
Ben, du coup, c'est beaucoup moins joli.
Ben oui, tu m'étonnes. Oui. Mais en fait, c'est ce qu'ils auraient dû faire, tu sais. Nous, ils auraient dû mettre des... Tu vois, pour éviter que les gens viennent à la plage, tu jettes dans le sable des...
Des déchets.
Trucs. Ouais, non, voilà, c'est ça. Des déchets...
Tu... On a déjà ça.
Non, tu mets déjà des punaises. Tu sais, ils marchent en pieds nus. Ils se des plantent Lego. Des punaises. Dans... Oh, des Legos. Tu mets plein de Legos sur la plage. Comme ça, les gens, quand ils marchent, ils se font mal aux pieds.
Ah ouais, ça, il y en a déjà plein, des Legos dans l'océan.
C'est vrai. Et l'eau turquoise faisait venir beaucoup de visiteurs, hein, malgré le confinement. Du coup, les autorités ont décidé de le teindre en noir parce que ce Blue Lagoon, comme il était surnommé, coup, maintenant, il va falloir l'appeler un Black peu autrement, hein, était quand même très, très prisé des influenceurs hein, qui venaient prendre des photos, quelques regroupements et ce genre de choses. Donc ça, je ne sais pas si ça va les dissuader ou si plutôt ça va faire venir du monde qui vont vouloir faire le buzz auprès du Black Lagoon, je ne sais pas.
Ouais, c'est possible que ça fasse l'effet inverse en fait.
Bah, faudrait tirer à vue, ce serait plus simple.
Ouais, voilà. Il y en a d'autres qui ont les meilleures solutions. Et d'ailleurs, ils ont profité pour rappeler que ce lac, hein, même s'il est très beau avec une eau magnifiquement bleutée, le lac est quand même il est très chimique et il est très toxique.
Ah oui, c'est ça.
Avec une toxicité proche de celle de l'eau de Javel ou de l'ammoniac, avec un pH de 11,3.
Mais c'est vrai que les gens n'allaient pas se baigner dedans, en fait. Ils faisaient juste des photos parce que c'était magnifique.
Ouais, mais en fait, c'est un ancien, je sais plus quoi. Et puis, du coup.
Une sortie d'usine ou je sais pas quoi, d'une mine, une mine de métal ou un truc comme ça.
Et apparemment, on peut y retrouver des cadavres d'animaux, des ordures, des excréments et des carcasses de voitures dans le plan d'eau. Donc. Voilà, ça doit être beau.
C'est magnifique.
Et toxique, et même les vapeurs doivent pas être top. Hein.
C'est merveilleux. C'est merveilleux.
Maintenant, il est noir.
Et maintenant, en plus d'être toxique, il est noir, il est dégueulasse, il donne pas envie.
Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, moi, j'ai une bonne nouvelle.
Ah.
Eh oui. McDonald's, bientôt de retour.
On a vu.
Évidemment. Donc McDonald's bientôt de retour. Hein. Le géant américain de la restauration rapide, qui avait fermé tous ses établissements depuis le début du confinement, fait un test. Ouais, dans 15 lieux pilotes de l'Ouest et de la région parisienne. Ils n'ont pas fermé dès le début, mais ils ont fermé juste après. L'objectif, en fait, c'était de reprendre progressivement les services de livraison et de drive seulement. Donc ouais, ils avaient d'abord maintenu la livraison auprès de la moitié de ces établissements avant de finalement fermer complètement. Là maintenant, ils aimeraient réouvrir livraison et drive uniquement. Donc 15 établissements ont été sélectionnés, 3 en région parisienne et 12 dans l'ouest de la France. Voilà. Donc les villes concernées n'ont pas encore été dévoilées. Vont y être testées en fait les bonnes pratiques sur la livraison et sur le drive. Voilà, il faut savoir qu'il y a des fast-foods comme KFC ou Pizza Hut qui eux ont déjà réouvert en fait sur ces parties-là.
Oui. Donc, c'est une excuse de merde parce qu'ils ont perdu trop de sous, mais.
Ouais, c'est ça. Donc port du masque et marquage au sol. Hein. Voilà, donc le but c'est ça. Ils vont avoir il y a tout un guide et qui a été soumis à un comité d'experts scientifiques, d'infectiologues et virologues pour voir si les mesures qu'ils prenaient étaient ok ou pas. Donc port du masque pour tous les salariés, un marquage au sol pour maintenir les distances de sécurité entre les salariés, un lavage des mains et des surfaces renforcées. Donc toujours selon les échos, les équipes qui testent sont volontaires et invitées à se prononcer toutes les 48 heures sur la poursuite de l'opération. Si elle s'avère concluante, McDo élargira à une trentaine d'autres établissements. Voilà. Aucune communication n'étant prévue par l'enseigne, les clients seront uniquement informés par des affiches sur les restaurants pilotes. Voilà. Par ailleurs, il faut noter que d'autres restaurants de la marque sont mobilisés pour la bonne cause, comme distribuer des petits-déj pour une cinquantaine d'hôpitaux français et tout ça. Enfin, voilà.
Des affiches sur les restaurants, mais si personne ne sort, personne va les voir, ces affiches.
Non, mais pas ben oui, mais en fait, tu vas les voir dans la rue sans doute, tu vois, je sais pas, ils vont peut-être l'afficher quelque part quand tu vas faire tes courses, du coup.
Uber, et puis voilà, ouais. Tu vois.
Ouais, tu le vois tout de suite, effectivement. C'est pas bête. Chagara, toi, tu nous parlais aussi d'un bon placement immobilier.
Bah ouais, c'est un peu le moment d'investir dans le bunker. Hein.
Ah bah oui.
Et en effet, les ventes de bunkers s'envolent en ce moment, surtout pour nos amis les Américains qui sont très fans de la survie, les survivalistes, tout ça. Donc le climat est un peu anxiogène en ce moment et du coup, la société Vivos, basée en Californie, en profite un petit peu. Hein, elle argumente ses ventes grâce à ça. En parlant de probabilité de méga tsunami, les prédictions de Nostradamus, bon voilà. Hein.
D'accord, on est bien là.
Non mais ils sont toujours un peu très crédules, donc ils ont peur pour leur vie, il faut les comprendre. Hein. Donc face à ces éventualités, ils proposent d'investir dans des abris. Vivos a investi dans d'anciens sites militaires à l'abandon pour les transformer en abris.
Ok, donc en fait c'est pas chez toi, c'est pas un bunker de chez toi, c'est un bunker ailleurs quoi en fait.
Et c'est ça.
Ok.
C'est ça, c'est un bunker ailleurs. Et ils te proposent de vivre en communauté, petite communauté de survivants.
Ah mais attends, mais j'avais pas vu ça avec des silos de missiles ou un truc comme ça, non?
Là c'est des bunkers. Ils ont leur premier site date de 2012. C'est un complexe militaire imaginé par l'armée américaine dans l'Indiana. Réputé pour supporter les chocs d'une bombe atomique de 20 mégatonnes. Putain. Et donc ce complexe est destiné à accueillir 80 personnes.
Et là c'est le début de Fallout, le jeu. Les gens vont ressortir.
Pas beaucoup, 80.
Ouais.
Et ça a été pris d'assaut par les acheteurs.
Ah oui, putain.
Ah ouais, là les 80, il n'y a plus rien. Il fallait se
dépêcher. Mais ça te rappelle pas celui qu'on a vu à Royan là?
Oui,
a visité.
Oui, complètement. C'est un petit peu ça. Et donc, par exemple, il y a un certain Robert qui est le PDG de la boîte, a décidé d'investir dans deux autres sites, parce que 80 ça suffisait pas. Donc dans le Dakota du Sud, 575 abris, et en Allemagne, date de la Seconde Guerre mondiale.
Ah, évidemment.
Il y aura possibilité d'héberger 1000 personnes et 5000 dans le Dakota.
Oh putain.
Et bien sûr, ils promettent aussi la construction d'écoles, cliniques, magasins, lieux de culte, enfin une vraie vie quoi.
Ah oui,
c'est la version moderne de l'Arche de Noé, tu vois.
Ça, il y aura un McDo peut-être dedans, tout ça.
Ah mais il y aura tout, hein.
Ah ouais, c'est ça.
Alors, les abris se négocient aux alentours de $25,000.
Ah, un Starbucks, un Apple Store.
Oui. C'est important pour la survie.
Oui.
Avec des baux de 99 ans, il faut ajouter à ça les coûts de l'aménagement, des systèmes d'électricité, de filtration de l'eau et $1,000 par an de charges. Mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop l'idée de vivre comme ça en communauté de survivalistes et décident la survie par eux-mêmes. Quand ils ont vu un petit peu quand on se jetait tous là sur les PQ et tout, hein, ils se sont dit non, c'est pas une bonne idée. Donc la société Rising S Company, basée au Texas, créée en 2002, après les attaques du 11 septembre, hein, on va surfer sur la vague.
Bah oui. Dès qu'il y a une crise,
propose la construction d'abris souterrains individuels. Donc là, c'est vraiment une construction pour toi.
Ok.
Voilà. Ouais, sous ta maison, quoi.
Voilà, par exemple.
Ça, c'est pas mal.
Leur prix de base est de $39,500.
Ouais.
Indique Gary Lynch, le general manager. Ils en ont réalisé plus de 1200.
Il y a combien de pièces?
Depuis leur lancement. Ça dépend. Il y a vraiment de tout. Il y a de tout.
Merci.
Déjà, leurs demandes ont énormément augmenté. Mmh. Au début, ils avaient 14 chantiers en cours sur leur agenda. Et puis là, les demandes, ils disent que leurs demandes ont grimpé de 2000%.
Oh putain.
Un truc de dingue.
Mais si c'est moins cher qu'un appartement, autant se prendre directement un bunker. Hein.
Oui, bah après, la vie est quand même moins sympa. Je pense que
la vue doit pas être terrible, j'avoue.
Voilà. Il y a aussi quand même des... Peinture.
Ouais, tu mets des écrans. Ouais, tu fais des fausses fenêtres avec des écrans derrière et tu mets le paysage que tu veux.
Tu peux.
Avec des écrans 8K OLED, t'as l'impression que le monde est vrai dehors.
T'as l'impression d'y être, mais je sais pas si la vitamine D, t'as l'impression de l'avoir. Hein. Donc si le catalogue de l'entreprise présente quand même des réalisations extravagantes, comme par exemple un abri de 1400 m² avec garage pour voitures de luxe et salle de cinéma, là je vais revenir sur ce...
Ah, il me plaît celui-là.
Ouais, celui-là il est pas mal. Donc on n'est pas obligé d'être millionnaire hein, pour en posséder un.
Hein. Parfait, ça tombe bien, je le suis pas.
Les clients souhaitent simplement protéger leur famille, que ce soit avec des pièces isolées et renforcées munies de trappes d'évacuation menant par un tunnel à leur bunker, ouais. Ou par des abris plus vastes et complexes. Donc voilà, il y a un peu de tout, mais il y a des gens, ouais, c'est un peu la panic room, ils veulent juste pouvoir s'isoler.
Là, t'appuies sur un bouton sur ton stream deck, t'as le sol qui s'ouvre en dessous de toi, et hop, t'es aspiré et tu finis dans ton bunker. Quoi. J'aimerais trop avoir ça.
Ouais, le but des acheteurs, c'est de pouvoir tenir au moins 6 mois. Il y a un acheteur qui parle de ça. Il veut conserver l'anonymat, cet acheteur. Ouais. Hein, il est installé dans l'est du Nevada. Et donc, comme il le dit, hein, quand il a vu les gens se rayer sur le papier toilette, le riz et les conserves, il se dit qu'il a bien fait quand même de se préparer. Donc lui, il a une pièce déjà adaptée où il y a déjà ses réserves. Quoi.
Il pourrait nourrir tout un village, mais tout va bien.
Mais ce sera pour lui pendant 6 mois, voilà. Il pense à lui, attends, quand même. Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Ne pas utiliser sa réserve.
Non mais tu fais comme il fait Prozine là, son stack.
Il a peut-être fait son stock petit à petit.
C'est ça, en fait, à chaque fois que tu vas faire tes courses, t'achètes un paquet de pâtes en plus que tu stockes. Et à la fin, t'as plus de place pour mettre tes courses.
T'as tout dans le bunker.
Ouais, mais c'est vrai que t'as tout.
Il est là pour ça.
Et à la fin, t'as des verres dans tes pâtes.
On va faire ça avec la banque en dessous, d'accord.
Oui, c'est ça. Parfait.
Voilà, donc le monsieur, la boîte dit que chacun s'arrange pour vivre un confinement relativement agréable. Pour le reste, c'est à nous d'intervenir. Les murs et les portes de nos bunkers peuvent résister aux explosions, ils sont insonorisés et le verrouillage est renforcé. Nous nous occupons de la sécurité aux clients de gérer l'ennui. Alors pour gérer l'ennui, il y en a qui ont trouvé quand même que acheter leur bunker qui s'appelle l'Aristocrate, c'était quand même la meilleure solution.
Ouais.
Il porte bien son nom, c'est le modèle haut de gamme, proposé à 9 millions de dollars.
Jacuzzi, tout ça.
Donc il peut accueillir 50 personnes.
Oh putain.
C'est un confinement moyennement restreint.
C'est bien pour les princes saoudiens avec leurs 20 femmes.
Par exemple. Bah, sinon, tu décides de privatiser un hôtel, comme il l'a fait. Donc là, dans ton aristocrate, tu as des salles de jeu, un sauna, une salle de sport, une salle multimédia, un bowling, un champ de tir et une piscine.
Un bowling.
Oh ouais, d'accord.
Ah non, mais
un
même,
champ
moi
de tir aussi, sérieux.
Non, moi, être confiné comme ça, tout va bien.
Des aménagements auxquels s'ajoutent une cuisine personnalisée, un garage multivéhicule, une serre potagère bio et des grandes salles de stockage. Okay. Voilà.
À quoi ça sert un garage multivéhicule si tu sors pas?
Et bien, peut-être que tu vas finir par sortir avec
le Cybertruck.
Voilà.
Avec ton Cybertruck Tesla, quand ce sera la fin du monde, avec ton char d'assaut, voilà, tu vois, exactement. Mais je note quand même dans tout ça, il n'y a pas une gamer room avec des PC et tout ça, quoi. Ça, c'est.
Il y a salle multimédia, quand même.
Il y a salle multimédia, c'est quand même pas mal.
Salle multimédia, tu sens bien la salle de ciné, quoi.
Salle e-sport.
Ça, il faudrait rajouter une pièce, quoi.
Ah ben, salle de ciné, 50 personnes, hein.
Ouais, c'est ça le truc. Marc, tu me diras, faire des parties de Mario Kart sur un écran de cinéma, c'est pas mal. Mais une salle de cinéma, 50 personnes. Mais sérieusement, la place perdue, quoi.
Je pense que ça rend la fin du monde un peu plus agréable.
Oui, à 50, oui, c'est sûr. Mais il y a 6 mois, il y a de quoi stocker 6 mois de bouffe pour 50 personnes.
Il y a des grandes salles de stockage.
Ouais, ouais.
Bah, ils peuvent se manger entre eux, après, c'est pas grave.
Ouais, faut voir.
Là, le nombre de disputes qu'il doit y avoir. C'est toi qui fais la cuisine.
Eh oui.
Non, il y en a qui ont trouvé
gérer la fin du monde. Ouais, ça, c'est bien. C'est tout ?
Oui.
C'est tout, parfait. Moi, je vais vous parler du top des plats les plus gras mangés pendant le confinement dans le monde entier.
Le confinement ?
Bah oui, parce qu'en fait, dans le confinement, on a besoin de nourriture réconfortante. Tu vois, on se fait des burgers, des pizzas, on mange du gras, voire du très gras.
C'est une bonne excuse.
Et ouais. Donc en Espagne, vous savez quel est le plat numéro 1 qu'ils mangent en ce moment ?
Patatas fritas.
Des churros bien sucrés.
Ah, c'est
eh oui, donc accompagné de chocolat grave, épais. Oui.
Fait maison du coup.
Ouais. Donc voilà.
Ça vaut le cul, le graillon dans ta maison.
Mais ouais. En Écosse, vous savez quel est le plat typique bien gras qu'on aime bien se faire pour se réconforter?
Un truc de mouton, non? Un truc
pas du
sauce.
Tout. La barre Mars frite. Donc la barre chocolatée Mars, mais
avec des frites.
Non. Frites, enfin frites.
Ah, frites.
D'accord.
Avec, voilà, vous la mettez dans de la panure, hein, un peu comme le fish and chips, oui. Sauf que c'est du Mars. Et vous faites ce qu'ils appellent un deep fried Mars bar. Donc, c'est un dessert qui est hyper calorique, hein, et qui risque de pas vous laisser sur votre faim.
Ils ont quand même vraiment des goûts chelous. Hein,
c'est ouais. Vrai. Attends, même la marque Mars, en fait, déconseille cette recette.
Faites pas ça chez nous, s'il vous plaît.
Mais je vous jure, ça existe même avec les
sneakers. Risquez de boucher vos artères.
Ça existe même avec les sneakers, c'est tout ça, évidemment. Enfin,
bah oui.
Prenez la barre de votre choix et vous la faites frire dans un beignet ultra calorique, du coup.
Non.
Oui, en Inde.
Nous aussi, on s'est fait une raclette l'autre fois.
Ouais, bah nous, c'est le premier repas qu'on s'est fait du confinement.
C'est vrai.
Le soir. Quand il y avait l'annonce du confinement, on a mangé une raclette.
Ouais, c'était au début aussi. C'était les seuls trucs qui restaient dans le magasin, de quoi faire une raclette.
Parfait. Donc en Inde, c'est. Alors je sais pas comment ça se prononce, mais je vais le prononcer en bon français. Le jalebi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une sucrerie. Un peu comme une pâtisserie en fait. C'est une préparation de pâtes qu'ils font frire dans un bain d'huile. En fait, vous avez à peu près la même déclinaison au Maghreb, la zlabia en fait, qui est cuisinée lors du mois du Ramadan. C'est une pâte qui est faite de sucre, de farine, de miel et de cardamome, qui est parfois colorée rouge, avant de le passer dans la friteuse. Voilà, et elle est enrobée d'un sirop de sucre sucré avec du sucre et encore du sucre. Voilà. Chez nos amis britanniques, vous savez ce qu'ils mangent ou pas? Parce que les Écossais, on a vu, mais.
Les fish and chips.
Eh ouais, le traditionnel fish and chips, on l'a fait celui-là aussi, chaque.
C'est pour ça en fait que tu nous fais faire tous les trucs bien gras, bien.
Pas du tout. Le fish and chips, alors nous il était bien parce qu'on l'a fait avec des flocons d'avoine pour la panure.
Parce que moi
voilà.
Je comprends pas du tout ce délire du fish and chips.
C'est un peu fit.
C'est pas spécialement bon, mais c'est pas.
Oh comment ça? Quand tu le fais
ouais,
toi-même.
Ouais, je suis d'accord que c'est pas ouf non plus.
Ouais, c'est pas ouf quoi. Non plus,
et c'est leur truc culinaire de chez eux qu'il faut absolument goûter.
Ouais,
quand c'est pas ta spécialité.
C'est ça, c'est ça.
Non, mais il y a d'autres spécialités d'autres pays qui sont super bonnes, mais pas eux.
Mister SP qui dit Cédric et Chag ont testé pour vous. Tout à fait, on a testé pour vous. Ensuite, on a l'acarare ou l'acarage, je sais pas, au Brésil. C'est un plat qui est un peu équivalent aux galettes saucisses bretons, tu vois, tellement c'est traditionnel là-bas. Et ils bouffent ça. En fait, c'est une recette afro-brésilienne qui est réalisée avec une pâte de haricots qui, elle aussi, est frite dans comme un beignet, en fait. Et elle est fourrée avec des crevettes sautées, des dés de tomates, du vatapa. Alors, je sais pas ce que c'est, le vatapa. Ça va être peut-être un piment ou un truc comme ça. Une purée crémeuse jaune cuisinée à partir de mie de pain, de lait de coco, d'arachide, de gingembre et de piment. Voilà. Donc, c'est une friture, en fait. Ouais, c'est une friture en fait, qui est faite par contre souvent qu'ils font frire dans l'huile de palme, ça rend l'ensemble en fait ultra gras. Donc,
Frire dans du Nutella.
C'est ça, c'est de l'huile avec de l'huile qu'on va faire frire dans l'huile. La Hongrie, c'est un peu les plus fit. Ils mangent ce qu'ils appellent le langos, donc c'est une sorte de pain en forme de galette qui est cuit dans de l'huile, qui est issue de la cuisine hongroise en fait. Qui est bon, ça c'est assez répandu apparemment dans l'Europe centrale. C'est un pain qu'on confectionne à partir de farine de blé ou de pommes de terre. Il est accommodé d'ail écrasé et couvert d'une crème aigre et de fromage râpé. Bon, voilà. Au Canada,
la poutine.
La poutine.
Poutine.
Évidemment, donc des frites avec
c'est
des morceaux
Québec,
de fromage
hein,
fondant.
Important.
Ouais. Arrosé d'une bonne sauce brune épaisse, hein, le tout en quantité gargantuesque. Voilà. Au compteur de la poutine traditionnelle. 700 calories. bah oui. 40 grammes de matière grasse dans une part de poutine traditionnelle. Donc voilà. Et il y a tellement de sel aussi dedans. Ah, tiens, notre chien, c'est Brou. Il y a tellement de sel aussi dedans que vous avez en gros l'équivalent de vos besoins en sodium, en matière grasse pour la journée, quoi.
Pour pouvoir déneiger avec.
Ah, mais ça, tu peux déneiger avec.
Pour
ça, c'est
pouvoir
clair.
Déneiger.
Aux États-Unis.
Le
un
hamburger.
Et non. Alors c'est un plat qui est moins connu que le hamburger et les club sandwich, hein, je vous le dis.
Quoi, la pizza
Alors, c'est le turducken. Vous connaissez pas?
Non.
Alors,
non.
Vous prenez une dinde, vous la fourrez avec un canard, qui lui-même a été fourré avec un poulet.
Ah, mais non.
Si, je vous jure. Et pour la farce, vous mélangez de la saucisse et de la chapelure. Ensuite, la préparation doit être braisée, rôtie, grillée, mais jamais frire. Voilà.
Ah,
et après, bon courage à vous pour manger ça. Alors,
un truc par un avant de les fourrer parce que celui qui est tout au milieu, il est jamais cuit.
Non.
Le poulet dans le canard, c'est ça, jamais cuit.
Poulet dans le canard qui lui-même est dans la dinde. Ce plat est une sorte en gros de dinde gigogne. Hein. Voilà. Donc c'est très populaire dans les États du Sud américain au moment de Thanksgiving normalement. Mais voilà, donc c'est un mélange des mots. Alors le nom, hein, c'est un mélange des mots donc turkey donc pour la dinde, duck pour le canard et chicken pour le poulet. Donc la turducken, c'est ça. Voilà, voilà. Et c'est du coup les plats qu'ils ont envie de se faire en ce moment. En Ukraine. Ça, c'est difficile. Je n'avais pas trouvé.
Non, j'avoue que je connais pas leur spécialité.
Bon, c'est le nom qui est rigolo. Ça s'appelle le salo. S-A-L-O. Il s'agit en fait de graisse de porc cru, salée et aillée. Donc voilà, l'hiver, certains disent qu'il faut en manger un petit morceau chaque jour pour affronter le froid. Hein. Et puis comme si c'était pas assez gras, certains les trempent dans du chocolat fondu. Mmh. Donc imaginez, en gros, la partie grasse de votre ventrèche, quoi. Vous avez salé et aillé, et vous trempez ça dans du chocolat fondu, je pense que voilà, hein, c'est parfait. En Alaska, l'akutak. Alors, l'akutak, c'est une glace qui est faite à base de graisse battue à la main. Il peut s'agir de gras de phoque ou de beurre de yak, ou de graisse de caribou ou de morse, en fonction de ce qu'on dispose. Chez nous, même hors de période de confinement, on risque pas d'en trouver, évidemment. Hein. Pour un soupçon de légèreté, les Inuits ajoutent des baies à la préparation. Voilà.
C'est s'ils en trouvent.
C'est du gras et du gras. Et chez nous, vous savez ce qu'il y a le vent en poupe? Pourtant, il fait beau. Hein. Non, c'est l'aligo. C'est l'aligo. Ah ouais. Donc, plus riche encore que la raclette ou la tartiflette, l'aligo, spécialité culinaire donc de la région d'Aubrac, est composé essentiellement de crème fraîche, 30% de matière grasse, hein, de thym, 27% de matière grasse, et puis une base de purée de pommes de terre avec de l'ail et une bonne dose de beurre, histoire de rajouter un petit peu de gras. Voilà. Souvent accompagné de saucisses ou de charcuterie, l'aligo garantit la dose de gras hebdomadaire en une seule prise. Donc, selon une nutritionniste, une seule cuillère de cette préparation couvre 6% des besoins journaliers en acide gras saturé. Hein. Une cuillère. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez vous réconforter, décidez de recettes.
En France, c'est le pain hein, qui donne envie, je pense, aux Français.
Non.
Oui, il n'y a plus une goutte de farine.
Ah oui.
Pourtant, les gouttes de farine dans les supermarchés.
Parce que tout le monde fait des cookies et tout ça. Là, ils sont tous lancés à faire des cookies.
Ils sont tous lancés dans le Paris.
C'est des cookies tous les deux jours.
Nous, on trouve de la farine, mais on ne trouve pas d'œufs.
C'est dur les autres.
Ouais, voilà.
Non, alors attends.
Ils se lancent dans les gâteaux, les crêpes et tout, je te dis, les gens.
Les cookies tous les deux jours.
Ils savent cuisiner, quoi.
C'est à la demande de Chagara.
Ouais, bah vous avez quand même des cookies tous les deux jours.
Ouais, alors, mais j'en faisais déjà avant.
C'est les cookies réconfort.
J'en faisais aussi souvent avant.
Et maintenant que je vais reprendre le boulot, je pense que ça va être tous les jours que je vais en avoir besoin.
Mais t'as dit qu'il n'y avait plus de farine.
C'est pas grave, nous on prend des flocons d'avoine pour les faire.
De notre côté, on a assez de pain pour la semaine avec tout ce que t'as fait. Hein. Donc.
Ouais, j'ai stocké. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Mais moi, je savais faire mon pain avant. Là, les Français se découvrent une passion pour le pain maison.
La brioche et tout
j'ai
ça.
J'ai pas attendu le confinement pour savoir faire ça, moi.
Non. Et bon, allez, news suivante pour terminer la première partie de la revue de presse. C'est toi, Chagara.
Oui, oui, oui.
Je me suis dit, il y a un blanc, elle s'est endormie.
Non, je vais vous parler d'une disparition inquiétante. Une chute d'eau.
Ah oui, effectivement.
Je sais pas si elle est partie en confinement, mais... comme ça, apparemment, c'était assez subi.
Ça paraît louche un peu quand même.
Elle était apparemment majestueuse. C'est de la cascade de San Rafael en Équateur.
Non mais tu sais, les mecs, ils inventent un truc. Alors là, avant, il y avait une cascade. Elle a disparu en 24 heures. What?
Peut-être pas en 24 heures, mais apparemment, ça a été assez rapide. Et ils n'ont rien inventé, hein, parce qu'elle était très connue dans un parc, donc le parc national de Cayambe-Coca.
Oui, bien sûr, très connue.
On n'y a pas été, mais c'était l'emblème du parc. Le parc était une réserve naturelle qui s'étend sur 4000 km au pied du volcan Cayambe. Et donc, c'était la plus haute chute d'eau du pays, haute de 150 mètres. La rivière Coca qui l'alimente n'est plus qu'un mince filet d'eau. Sa disparition a été brutale, elle remonte d'après ce qu'on en sait au 2 février. Bon, ça s'est pas passé en 24 heures, hein.
Non mais
ça s'est pas passé en de nombreuses années.
Mais il y a quelqu'un qui a détourné le cours d'eau.
Oui, ils ont fait un barrage.
Ils ont quelques hypothèses, mais ils en sont pas encore sûrs.
Mais ni la sécheresse pour l'hypothèse.
Il y a un trou en fait. Mais ni la sécheresse ni le réchauffement climatique ne sont pointés du doigt. La rivière a été engloutie par un trou qui vient de se former.
Oui.
Donc maintenant elle plonge dans les profondeurs du sol juste en amont de la cascade. Donc du coup la cascade elle est plus alimentée.
Ça va en faire une autre, non ?
Bah, elle passe en tout cas en souterrain, quoi.
Ah, bravo.
Donc, il ne subsiste que trois ruisseaux. Et en plus, elles se séparent. Donc, maintenant, il y a trois ruisseaux qui s'écoulent sur une pente moins raide, invisible des points d'observation habituels de la cascade. Donc, voilà, il n'y a plus rien à voir. Circuler. Ouais. Je ne sais pas si ça permet.
C'est comme si pour les chutes du Niagara, t'arrives et il n'y a plus les chutes du Niagara.
Il n'y a plus rien. C'est pour éviter les confinements, en fait, les rassemblements.
Ah, mais oui, c'est
ça. C'est la merde pour
c'est pour disperser les gens.
Tout autour.
Ah, mais elle a raison, Roxy. Elle est un peu en retard, je pense, mais elle a raison. Rien de mieux que de belles miches pour se réconforter. Mais c'est vrai. Les miches de pain que tu as faites, elles sont
réconfortantes. Mais oui. Mes miches. Ah,
c'est pour ça que les Français aiment le pain.
Peut-être.
Mais c'est sûr.
Pour en revenir à notre disparition de chute, qui a chu. Ils ont quelques hypothèses. Le ministre équatorien de l'Environnement ne s'explique pas bien ce phénomène. Il évoque des glissements de terrain, un phénomène naturel qui n'est pas rare dans cette zone à forte activité sismique. Mais d'autres chercheurs mettent en cause la plus grande centrale hydroélectrique du pays, construite récemment sur la rivière Coca. C'est le point de vue d'Emilio Cobo, coordinateur du programme pour l'eau en Amérique du Sud à l'Union internationale de la conservation de la nature. Une cascade qui existe depuis des milliers d'années ne disparaît pas, comme par hasard, quelques années après l'ouverture d'un projet hydroélectrique. Bon, j'avoue que la coïncidence est assez
c'est
un
bizarre.
Peu la puce à l'oreille.
Moi, je dis c'est la rivière Coca, c'est Coca-Cola qui pompe tout.
C'était du Coca, en fait, dedans. En tout cas, le ministre a rien prévu pour rénover quoi que ce soit. Hein. Il ne prévoit pas de travaux pour la remettre en eau. La cascade appartient au passé.
Oh putain.
Allez, fini, passez à autre chose. Maintenant, vous irez voir le volcan.
T'imagines s'il y avait un resto qui était construit à côté, tout ça, en mode attraction touristique, ouais, tu vois.
Et non, mais pense même à la faune, quoi.
Ouais.
Je veux dire, un cours d'eau, c'est toujours important. Peu importe.
Non, mais bien sûr, bien sûr.
Tant pis, on se démerde, mais.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait peut-être des animaux, ou même la
forêt amazonienne, quand même.
Ouais, ou même des. Même des arbres ou tu vois des trucs comme ça qui du coup
qui risquent de s'assécher ouais.
Ouais, ça risque de crever. Bon ok, c'est merveilleux. Sur ce, je vous propose de passer tout de suite à notre jeu du soir qui devrait être assez rapide. Confiné, confini ou les deux. Alors oui, je sais, ceux qui nous suivent en direct le dimanche soir sur Twitch voient qu'il y a écrit Askip sur le nom de la rubrique et pas Confiné, Confini ou les deux, parce que j'ai pas eu le temps de le faire et parce que je voulais pas faire un truc spécifique pour le faire une seule fois en fait. Bref, donc...
On fait ce qu'on veut d'abord.
Le principe est simple.
Askip modifié.
Ouais, je vous donne une affirmation et vous devez me dire Confiné, Confini ou les deux. D'accord ? Okay. Je donne un exemple bête. Alors, vous allez voir, c'est complètement débile, ça n'a rien à voir. Hein. Mais par exemple, ils ont décidé de tous adopter des chiens. Donc confiné, confini ou les deux. Voilà, il faut juste, faut juste trouver la bonne affirmation. Il imprime des attestations.
Confiné.
Confiné, ouais.
Ouais, confiné. Parce qu'il est confiné
aussi, parce qu'elle a changé en 15 jours.
C'est bon, vous avez tout donné votre mot, ouais, ok. Confiné. Confiné, pardon.
Confiné.
Il vient de se mettre au running pendant le confinement. Confiné, confini, ou les deux ?
Les deux.
Les deux.
Les deux, ouais.
Les deux, c'est effectivement ça. Il utilise des huiles essentielles pour booster son système immunitaire.
Confiné.
Ah, les deux, hein. Confiné aussi, hein.
Non, c'est confiné.
Ouais.
Les confinés font pas ça.
Non, bah les confinés, ils savent qu'il suffit juste de se confiner en fait. Ça sert à rien de booster son système immunitaire. Au Pérou, ils boivent une potion anti-coronavirus. C'est les confinés là-bas, les confinés ou les deux?
Les deux.
Bah c'est pareil que l'autre. Hein.
Bah non, c'est confini, pardon.
Ouais, c'est plutôt bah ouais. Confini, ouais. Alors, c'est juste pour l'anecdote, parce qu'il faut savoir qu'au Pérou, ils ont quand même vendu une potion anti-coronavirus, c'est une espèce de liqueur hyper forte, et des gens en sont morts de l'avoir bu.
Oh non.
Si, si.
Bah du coup, ils ont pas eu le coronavirus.
Ah bah au moins, ils sont ça pas marche. Morts du coronavirus. Il utilise des pierres pour éviter la maladie et ne veut pas de la 5G. C'est un confiné, un confini ou les deux?
Confini.
Un confini.
Ah bah ouais.
D'ailleurs, en parlant de ça, il y en a un qui a brûlé des antennes 5G en croyant que c'était à cause de ça.
C'est ça. C'est ça. En Angleterre aussi, ils font ça. Ils brûlent les antennes 5G sur les lieux d'expérimentation en disant que c'est à cause de l'antenne de la 5G qu'il y a le coronavirus. Mais vous rigolez, mais cette croyance, elle est ancrée. Je
le répand très vite.
Mais c'est fou. C'est
pire
fou.
Que le coronavirus.
Les gens, c'est incroyable.
C'est un truc.
C'est les platistes, ça. Lumière.
Ils portent des masques FFP2 pour faire les courses. C'est les confinés, les confinés ou les deux?
Vu qu'il sort.
Alors, Chagara, j'ai pas entendu ce que t'as dit.
J'avais dit confiné, mais.
Ah, il faut bien réfléchir.
Non, je maintiens, confiné.
Mais confiné, ils portent des masques FFP2 pour faire les courses, ok.
Confiné.
Ça, c'est confiné.
Je sens que tu vas dire confini parce qu'il aurait dû le laisser au.
Exactement.
Oui, que c'est pas sa faute à lui s'il y en a pas assez pour tout le monde. Donc le confini, c'est le gouvernement.
Les confinis.
Il
a raison quand même de se protéger.
Les FFP2, il fallait les donner à la pharmacie. C'était ça qu'il fallait.
S'il y en avait eu assez pour tout le monde, il aurait été intelligent de le mettre parce qu'il se protège.
Aujourd'hui, on nous dit de porter juste des masques chirurgicaux pour pas contaminer les autres. Pas des FFP2.
Bah oui, mais t'es pas protégé.
Mais ça, c'est autre chose. Ils portent des masques faits maison pour sortir.
Bah, confiné.
Le confiné, le confini ou les deux?
Pas le confiné. Même si quand il sort, il est plus très confiné.
Bah, les deux. Les confinés aussi font des masques maison. Vous vous souvenez pas? Les deux, exactement. C'est les deux. Maintenant, on nous a dit de porter des masques, donc les confinés. Porteront des masques, même fait maison,
mais
puisqu'on nous incite
des masques,
à les faire.
Il n'y en a pas en fait.
Mais il faut les faire.
Tu vas le coudre,
bien sûr,
sans la machine.
Mais si, c'est ce qu'il dit.
Ça à foutre.
Le Calbut Challenge grave, en ce moment. Ouais. Exactement, Pedro Litos. Ils profitent du confinement pour faire des baignades naturistes à la plage. C'est les confinés, les confinis ou les deux?
Ça, c'est confiné.
Bizarrement, là, vous êtes d'accord tous. Hein. Alors, il fuit sa femme après une dispute pour faire 200 km. C'est un confiné, un confini ou les deux?
Un confini du coup.
Ouais,
il fait 200 km.
Ouais, le mec quand même, il partait je crois de Bretagne et jusqu'à Angers. 200 bornes parce qu'il s'était disputé avec sa femme. Et il est parti avec je sais plus qui, son frère et son fils, rejoindre leur famille. Ils sont fait arrêter évidemment. Il reste chez lui pour mater la Casa des Papel.
Bah, confiné.
Confiné, ouais.
Il reste chez lui pour mater la Casa des Papel et spoil les gens sur internet.
Les deux.
Ah non, c'est le confini qui spoil.
Ah bah, et tout à l'heure, il était confiné.
Il est confiné aussi.
Non, le confiné, il la regarde, il dit rien. Le confini, il la regarde et il spoil les gens.
Oui, mais il est quand même
nul.
Confiné, du coup, c'est les deux.
On sera pas d'accord. Il applaudit le soir le personnel médical, mais sort 3 fois par jour pour des motifs de merde, alors qu'on a dit de rester chez soi, bordel.
Confini.
Confini.
Ouais, c'est le confini.
Enculé. Voilà.
L'enculé. Alors, l'enculé, on va en parler à la fin de l'émission. Reste avec nous, Scalen. Dans la série, Cédric et Chag ont testé pour vous. On en parlera à la fin. Parce que c'est Roxy Juju ou je sais plus qui disait qu'on avait testé toutes les recettes de cuisine. Voilà. Alors j'en rêve, dit Roxy Juju. Tu en rêves de quoi? On saura plus tard.
Pas grave.
merci pour le Twitch Prime Fab en tout cas. Bon, on a terminé avec ce jeu à la con.
Qu'on se le dise.
Voilà, c'est ça. Et surtout, restez chez vous. Donc on va passer tout de suite à notre rubrique que vous attendez tous pour briller en société. Bah, pour ceux qui vont au boulot demain ou qui sont en télétravail, on va apprendre des choses ce soir avec le lévressage. Alors, je crois que Roxy Juju, elle est décalée, parce que mes gens rêvent, confinée, elle est encore dans le jeu.
Ouais, on n'a pas tous la même vitesse de connexion.
Ouais. Je crois que c'était faire 200 km pour fuir sa femme ou un truc comme ça. Du coup, les vrais saches, Chagara, de quoi vas-tu nous parler ce soir?
Alors, je vous ai fait une petite sélection, comme je l'avais déjà fait lors d'un épisode précédent, de quelques anecdotes rigolotes... plus ou moins intelligentes, voilà, qui vont vous apprendre des choses, des trucs qui sortent un peu du commun.
Ok.
Donc là, je vais vous parler d'un monsieur, un cuisinier nigérian, qui a survécu durant 60 heures à 30 mètres sous l'eau. Je vous raconte sa petite histoire. Harrison Okene, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui était donc cuisinier nigérian à bord du Jascon 4.
Ok.
Et donc le 26 mai 2013, donc c'est une histoire quand même, ça remonte pas.
Oui, c'était il y a longtemps. Ouais.
Non, quand même, c'est il y a pas trop longtemps. Le bateau se renversa et a coulé à 30 mètres de profondeur. Par chance, une poche d'air se forma dans la pièce où il se trouvait, où il put survivre dans le noir total pendant 60 heures jusqu'à l'arrivée des secours. Avec seulement une bouteille de Coca-Cola et quelques mètres cubes d'air, il fut retrouvé souffrant d'hypothermie et délirant à cause de l'intoxication au CO2.
Mon Dieu.
Mais au moins, il avait du sucre. Donc...
il avait quand même sa bouteille de coca.
Oh,
donc il a réussi quand même à survivre 60 heures, donc on peut croire, voilà, sans manger, sans boire. Et ben, il y a le Coca-Cola. Il avait quelques mètres cubes d'air, parce que donc, de l'air s'était emprisonné dans la pièce où il se trouvait. Plusieurs tentatives de sauvetage avaient été mises en place sans succès à cause des décombres empêchant l'accès à l'épave. Malgré le fait qu'Harrison tapait de toutes ses forces sur les parois l'entourant, il fut l'unique rescapé.
Oh putain, tout le monde est mort et lui, il s'est retrouvé là, pile dans cette pièce.
C'est quand même assez dingue que pendant 60 heures, ils ont encore continué à chercher, quoi.
Bah ouais, ils se sont dit que ça pourrait arriver. Ouais, comme dit Ghost Dragon, un gars du Nigeria, effectivement. Tu connais pas
Nigeria.
Le Niger.
Le Niger. Écoutez-vous, moi.
Ok, donc on peut survivre avec du coca pendant 60 heures dans un bateau retourné. Bah écoute, on aura appris un truc.
Voilà, bah les survivalistes, ils devraient faire du stock.
C'est ça.
Voilà pourquoi, du coup, on a croisé une vieille dame au supermarché avec ses bouteilles de coca. Mmh. Elle prévoyait pas la gastro.
Ouais, non, elle prévoyait un bateau qui se renverse et pendant 60 heures.
Ça okay. peut servir. Alors, je vais vous parler d'un truc un peu moins sympa, un peu plus vieux, au début des années, au début du XXe siècle à New York.
C'est quand je venais de naître.
Voilà. Il existait une exposition, pas très cool, mais c'était des bébés prématurés,
oh.
Pris en charge dans des incubateurs. C'était une attraction payante.
Non, mais c'était
quand même
vivant.
Une attraction.
Bah, oui. Attraction.
Attends.
Ouais, c'est une attraction parce que.
Non mais.
Oui, ils étaient vivants. Ils sont pas juste nés prématurément. Ils sont obligés de rester dans les incubateurs comme en maternité.
Oui, ça je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que je pensais que c'était le musée, c'était genre avec des poupées ou avec des prématurés qui étaient décédés.
En fait,
tu vois,
ouvert,
ça aurait été bien glauque.
C'est comme s'ils avaient ouvert les portes de la maternité.
Oh mon Dieu.
Donc c'est payant pour aller les voir. Et ça permet aux parents des bébés d'obtenir une prise en charge de leur enfant à titre gratuit.
Ah mais oui, parce que là-bas, ils ont rien de...
Voilà, donc ça paraît quand même aussi horrible, mais c'est quand même le propriétaire, Martin Arthur Cooney, a quand même sauvé, normalement, ils disent, plus de 6000 vies.
Mmh.
C'est une solution comme une autre. Écoutez, déontologiquement, c'est quand même pas top, mais...
Tu peux jeter des cacahuètes aussi, Ghost Dragon.
Dans le contexte de l'époque, les naissances prématurées n'étaient
pas
prises
aquariums.
En charge. Voilà, le problème c'est ça, c'est que les naissances prématurées n'étaient pas prises en charge médicalement par les hôpitaux ou les médecins, ouais. qui voyaient en ces bébés quand même des êtres inférieurs, inadaptés à vivre.
Ah super.
Bien que boudés par la communauté scientifique, les méthodes de soins sont devenues bien plus tard dans les années 50 un standard dans la prise en charge des bébés prématurés. Donc finalement...
Finalement.
Ouais. Un mal pour un bien.
C'est ça. C'est ouf.
Une sorte de nouveau zoo, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est quand même un peu
zoo
glauque.
D'humain.
Un zoo d'humains.
Un zoo de bébés humains.
C'est un peu le cas en ce moment. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est qui disait ça? Avant, on regardait les animaux à travers les vitres.
C'est ça. C'est juste qu'ils nous regardent.
C'est un peu ça. Alors, le saviez-vous ? Dans chacun des films de la trilogie Matrix, cela débute par le défilement d'un code vert sur fond noir composé de caractères japonais,
oui.
de lettres de l'alphabet latin et de chiffres. Le designer...
Attends, j'ai pas suivi de quoi, le début ?
Matrix, tu sais, à chaque début du film, tu vois la matrice, en fait.
Oui, la matrice.
Voilà. Qui défile. Et dessus, c'est des caractères japonais, des lettres de l'alphabet latin et des chiffres. Et en fait, le designer Simon Whitley a expliqué que ce code vert a été inspiré par un livre de recettes de sushi appartenant à sa femme.
Putain.
C'est quand même assez...
Voilà. Le mythe s'effondre.
Ouais.
Il a vu le livre de recettes, il a fait « Waouh, mais c'est la matrice !» Putain, c'est merveilleux.
Une autre petite anecdote, c'est sur des îles autour de l'île Maurice. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est une belle bourde, mais au nord de l'île Maurice se trouvent l'île Ronde et l'île aux Serpents.
Ouais.
Mais en fait, elles portent très mal leur nom. Parce que l'île aux Serpents n'abrite aucun serpent et a une forme quasiment ronde. Tandis que l'île Ronde, c'est une réserve naturelle interdite aux civils abritant des boas et qui n'a pas du tout une forme ronde.
En fait, c'est fait pour tromper les gens. Je vais sur l'île Ronde et les mecs, ils vont sur l'île de forme ronde. Et en fait, eh ben non, c'était celle aux serpents. Niquez-vous. Vous allez tous mourir.
Ils sont trompés, en fait, quand ils les ont découvertes. Et...
Ouais, c'est ça.
Bah, je sais pas, ils les ont mal attribués.
Ah non, mais je suis sûr que c'est un piège. C'est un piège.
Est-ce que vous savez quel est le pays qui dispose des plus grandes réserves de pétrole ?
Encore un fonctionnaire qui n'a pas compris l'escalade. De plus grandes réserves de pétrole ? De pétrole ? Non, moi je sais pas, j'irais plutôt genre tu vois Russie ou Alaska ou États-Unis.
Eh ben c'est le Venezuela.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Les sols du pays hébergent près de 300 milliards de barils de réserves, ce qui représente près d'un quart des réserves mondiales.
C'est vrai.
Putain.
Pour comparer, les États-Unis ou le Qatar en ont 10 fois moins.
Ouais.
Ah ouais, quand même.
C'est les réserves prouvées, hein,
oui, oui.
Que l'on peut estimer.
C'est merveilleux.
Mais une partie de ce pétrole est du pétrole lourd, donc plus difficile à extraire.
Ouais.
Est-ce que vous connaissez, alors j'ai trouvé ça, c'est assez sympa, c'est une, comment dire, une tradition à Naples qui s'appelle le café suspendu ou le café en attente.
Ah, tu me l'avais raconté ça.
C'est vrai ?
Le café en attente, mais c'est un Starbucks du coup, non ?
Non.
C'est une tradition de solidarité envers les plus pauvres, pratiquée dans les bars napolitains sous le nom de café sospeso. Elle consiste pour un client à commander un café et en payer deux.
Voilà.
Un pour lui et un autre pour un client démuni qui en fera la demande plus tard. La pratique commence à se répandre en France.
C'est un peu comme à Paris. Tu vas à Paris, tu commandes un café, t'en payes deux, mais t'en as qu'un.
Mais... Ouais, non, mais ça, merci beaucoup. Il n'y en aura pas pour l'autre plus tard.
Il n'y en aura pas pour l'autre non plus. Ouais, dans les commentaires, hein, j'ai pu voir aussi qu'ils disaient ouais, enfin, au prix du café, quand je vois le prix réel d'un café de 30 centimes et le prix de vente 2 euros, c'est plutôt au gérant d'offrir le café. Ouais, et apparemment en France, ça se pratique dans les boulangeries pour la baguette.
Ah oui ?
Je trouve ça plus intéressant que le café, parce que c'est peut-être pas essentiel le café.
Bah, nous, il y a et trois achetés, la quatrième offerte, mais elle est pour nous, elle est pas pour les
elle
pauvres.
Elle est pour nous, elle est pas pour le, pas pour le pauvre. Ok, très bien. Vous savez sûrement que Beethoven était sourd.
Oui.
Très bien.
Mais on t'a pas entendu en fait.
Ah, vous saviez sûrement que Beethoven était sourd.
Oui.
Non mais nous aussi en fait. Vas-y, continue.
Oh putain. Il est devenu sourd à l'âge de 26 ans.
Ouais.
Et il était atteint d'une...
Dragon, il fait la même vanne, hein.
Mais vous êtes tellement drôle. Il était atteint d'une surdité de transmission. Donc en fait, son oreille interne était intacte. Et ouais. Il a trouvé un système assez ingénieux. La condition osseuse en fait. Pour continuer à entendre la musique qu'il faisait. En fait, il serrait... une baguette en bois entre ses dents et il l'appuyait sur la caisse du piano et du coup par transmission osseuse il entendait les sons.
Oui. Ouais, et c'est malin ça.
Un peu déformé les sons quand même.
Ouais, mais pas tant que ça. T'as déjà utilisé un casque à transmission osseuse, c'est que tu mets sur les tempes et tout ça. C'est pas mal en fait. C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal, mais pour écouter de la musique.
Ouais, mais oh si tu peux entendre de la musique de façon correcte, vraiment. Mais après, effectivement, il va te manquer certaines fréquences et certaines choses, sans doute. Mais ça marche pas mal. Donc ça m'étonne pas qu'il.
À mon avis, il doit y avoir des problèmes sur les aigus. Parce que les aigus ont beaucoup plus de mal à se déplacer.
Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible.
Dans les parties solides.
C'est possible. Mais en tout cas, la conduction osseuse, c'est vraiment la bonne idée. Autre chose, Chagara, où on a fini ?
Une autre petite anecdote sur notre cher Rafael Nadal.
Ouais.
Bon, on sait qu'il est très fort au tennis. Et en fait, c'est expliqué un petit peu scientifiquement. Parce qu'en fait, il est réputé pour avoir le coup droit le plus efficace de tous les temps. Et donc, scientifiquement, ils ont vu que lorsqu'il frappe un coup droit, la balle peut atteindre une rotation de 5000 tours par minute. Donc c'est son coup droit lifté.
Ouais.
Quand ses adversaires atteignent en moyenne la moitié. Il y a seulement Federer qui, parfois, peut atteindre les 4000.
Oh putain.
Ah ouais.
5000 tours,
mais c'est du coup, c'est 5000 pour Nadal et les autres ne sont pas capables d'atteindre plus des 2500, 3000 quoi.
Ouais, ça explique, et pourquoi du coup pas mal de choses.
Je pense qu'il doit y avoir une manière de frapper dans la balle qui est très particulière.
Bah ouais. Ouais, quand tu lifts en fait, c'est quand tu frappes et en même temps, tu sais, tu lèves ta raquette pour faire tourner la balle en fait. Enfin, soit tu la lèves, soit tu la baisses d'ailleurs, parce que tu peux la lifter dans les deux sens, mais. 5000 tours minute alors que les autres en font 2500 et certains arrivent à 4000, mais oui, forcément, ça change complètement la donne. Et il ne fait que ça, dit Captain Hugo. Ouais, bah ouais.
Il défonce
tout le monde, c'est possible. Ça marche par d'autres orifices, par vibration. Oui, sans doute. Ok, c'était tout. On en reste on en reste là pour ce soir. Allez.
J'en ai sorti pas mal quand même.
Bah oui, t'en as sorti.
J'espère
pas
que
mal.
Vous avez un peu instruit. Vous allez pouvoir briller en société.
Mais grave. Demain, la machine à café. Ah bah non. ok, parfait. Bah écoutez, on passe à la partie 2 de la revue de presse. BFM, il est 20h05, l'heure d'un nouveau journal, avec moi-même d'ailleurs, puisque je vais vous parler de Shenzhen qui devient la première ville chinoise à interdire de manger du chat et du chien.
Ouais, victoire.
Et ouais.
Après l'épidémie, ils interdisent de manger des pangolins et des chauves-souris.
Ah mais justement, alors, écoute-moi bien. Après l'épidémie de coronavirus, donc, les autorités chinoises avaient décidé d'interdire la vente et la consommation d'animaux sauvages. La ville de Shenzhen, elle, dans le sud de la Chine, va plus loin. Alors déjà, pangolins, chauves-souris, tout ça, c'est fini. Hein. Mais là, en fait, ils vont plus loin. À partir du 1er mai, interdiction de manger chats et chiens. Voilà. Ah, après, c'était pas une pratique qui était si courante. Hein, faut savoir quand même. Il y a 30 millions de chiens qui sont tués chaque année en Asie pour leur viande. C'est pas tant que ça. La majorité des Chinois l'ont jamais fait et disent qu'ils ne le veulent pas en fait. Ouais, ils sont quand même.
Tuer 30 millions d'humains par an, juste comme
ouais,
ça.
Ouais, mais ils sont quand même plus d'un milliard, tu vois. Donc tu te dis, sur un milliard de Chinois, si tous mangeaient de la viande, ça ferait beaucoup de chiens tués. Donc,
c'est pas là-bas où ils ont un festival exprès pour ça.
Oui.
Oui.
Sur les chiens, ouais.
Un truc aberrant.
Ouais, mais déjà à Shenzhen, donc du coup, c'est fini. Ouais, donc les chiens et les chats en tant qu'animaux de compagnie ont établi une relation beaucoup plus étroite avec les humains que tous les autres animaux, et l'interdiction de la consommation de chiens et de chats et d'autres animaux de compagnie est une pratique courante dans les pays développés et à Hong Kong ou Taïwan par exemple, a déclaré le gouvernement de la ville de Shenzhen à Reuters. Donc 10 millions de chiens et 4 millions de chats étaient tués chaque année en fait, en gros. L'organisation de défense des animaux HSI a salué cette décision qui pourrait donc être un moment décisif dans les efforts visant à mettre fin à ce commerce brutal qui tue environ 10 millions de chiens, donc 4 millions de chats en Chine chaque année, a déclaré le docteur Peter Li, spécialiste des politiques chinoises pour HSI. Donc les défenseurs des animaux ne manqueront pas pour autant les griefs envers la Chine. Hein. Le pays a accepté la création d'un médicament à base de bile d'ours, entraînant la mort de milliers d'urcidés. Alors que le principe actif de la bile d'ours peut être produit en laboratoire. Donc, voilà.
Putain, mais ils sont casse-couilles. Hein.
Mm-hmm.
Faut pas leur foutre la paix aux animaux.
Exactement. Fini bouffer les minous, tout à fait, Roxy Juju. Fini. Donc,
pas cela, en tout cas.
Pas cela, en tout cas. Voilà. Fini les vrais hot dogs d'Hydrix aussi. Hein. C'est exactement ça. Bon, mais justement.
En parlant de dog.
Ben voilà, vu que le chien n'est plus mangé, le chien a du temps pour lui.
Et le chien peut conduire.
Et c'est ça.
Aux États-Unis, ils mangent pas les chiens, ils leur apprennent à conduire.
Exactement.
Donc ça se passe aux États-Unis, près de Seattle, à l'issue d'une courte poursuite à vive allure.
C'est ça, en fait. C'est les chiens qui...
C'était un pitbull au volant de la voiture. Donc en fait, la police a reçu plusieurs appels alertant sur un automobiliste qui venait de heurter deux autres véhicules avant de prendre la fuite. Des services de secours avaient dans la foulée reçu de multiples signalements sur une voiture roulant en zigzag à 160 km/h. Et donc des policiers se sont lancés à la poursuite du véhicule et ils ont découvert un chien pitbull sur le siège du conducteur. Et l'homme était assis côté passager, il tournait le volant et manœuvrait les pédales. Bon, il le laissait quand même pas tout faire. Il est en apprentissage quand même, donc bon, il le surveille.
Non mais il avait pris quoi lui, bordel.
Les forces de l'ordre ont dû déployer des herses pour stopper le véhicule et interpeller le responsable, donc un homme de 51 ans. Placé en garde à vue pour conduite sous influence de stupéfiants, il a reconnu qu'il tentait d'apprendre à conduire à son chien.
Mon Dieu.
Le pauvre. Il avait peut-être pas d'enfant à qui apprendre, du coup il a appris à son chien.
C'est ça.
Non mais ça fait quand même beaucoup quoi.
Donc il a été placé en refuge parce que voilà, c'était pas un chien agressif, même s'il avait une conduite assez agressive apparemment.
Ouais.
La policière dit ne avoir jamais été confrontée à une telle excuse.
Tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
Ouais, il était à mon avis bien bien atteint.
Bon, moi j'ai une news aussi sur un mec qui respectait pas vraiment le confinement et qui s'est fait choper. Donc c'est un homme en fait qui a été arrêté le dimanche 29 mars à Colomiers, donc en Haute-Garonne, alors qu'il avait sur lui une arme et une trentaine de pièces d'or.
What?
Des pièces d'or. C'est la casa des papels IRL quoi. Donc plus de 1300 autres ainsi qu'un véritable arsenal de guerre ont été découverts par les policiers lors d'une perquisition à son domicile à Auch. Donc voilà, le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. En fait, il cachait un véritable trésor. Le mec, il est âgé de 43 ans, a été interpellé donc sur un parking d'un centre commercial. Et les gens disent les policiers en fait faisaient une patrouille de routine, tu vois, un truc un peu classique. Et puis ils se disent tiens, c'est bizarre qu'il y ait un mec dans sa bagnole, on est en plein confinement, tout ça. Donc ils ont été le voir. Et donc au moment de l'arrestation, le mec s'est présenté comme un agent de sécurité. Donc voilà, et ils se sont rendus compte qu'il était en possession d'un pistolet automatique chargé. Et plus bizarrement, il avait sur lui une trentaine de pièces d'or. Et ce qu'il a donné comme excuse, c'est qu'il devait les monnayer avec un futur acheteur. Ok. Donc évidemment la transaction s'est pas faite. Hein, le quadragénaire a été placé en garde à vue, donc une perquisition à son domicile. Et alors là. Groupe de la répression du grand banditisme a découvert un impressionnant arsenal, des pistolets, des revolvers, un fusil de chasse, des munitions et deux poignards, donc voilà, un sac rempli de bijoux et des codes de coffre-fort ont aussi été retrouvés. Et ce n'est pas tout, l'homme cachait également 93 500 euros d'argent liquide et 1300 pièces d'argent et un louis d'or. Tout ça chez lui.
Ah, dis donc, putain.
Ouais. Donc tu sais, c'est le hasard de... En fait, finalement, le confinement et les contrôles d'attestation auront servi à faire tomber un mec qui faisait soit des cambriolages ou faisait du recel, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Donc, mise en examen et détention provisoire, hein, voilà. Ce qu'il détient n'est pas illégal. Ça peut paraître impressionnant, mais en réalité, c'est juste un problème de régularisation puisqu'il n'avait pas les papiers, machin et tout ça, a expliqué son avocat. Mon client est un numismate qui a transformé sa passion en moyen de subsistance supplémentaire. Donc, numismate, non, c'est pas ceux qui collectionnent les pièces de monnaie, c'est ça ? Les armes, elles, proviennent d'un héritage familial, soi-disant. Voilà.
Que ça provient d'un héritage familial ou pas, c'est pas interdit, les armes ?
Si, donc voilà. Son client a été mis en examen pour blanchiment et surtout détention illégale d'armes, parce qu'elles n'étaient pas déclarées, même si c'était un héritage. Hein. Elles étaient peut-être déclarées au nom de ses parents,
mais
c'est tout quoi.
Même faut un port quoi, faut un port d'armes.
Exactement. Donc il a été placé en détention provisoire et l'enquête continue.
C'est le Jack Sparrow.
Et ouais. Bon, Chagara, tu nous fais dans la joyeuseté encore ce soir.
Ouais, bah c'est des gens qui ont voulu s'occuper pendant le confinement.
Ah bah qui dit confinement dit faire des travaux, faire le ménage. Alors nous c'est vrai que la première semaine ça a été très productif. Hein.
Ouais, la première semaine on est très motivés. Donc eux c'était aussi peut-être pendant leur première semaine ils ont fait des travaux dans leur cave. Ils ont été assez vite arrêtés par une découverte. Donc c'est un couple d'Arras qui a tenté de construire un atelier dans sa cave et qui est tombé sur un squelette humain.
Merde.
Surprise.
Par hasard, voilà, Cécile et son compagnon ont aménagé dans leur maison.
Acheté un certain Dupont de Ligonnès.
Ils n'ont pas rénové tout de suite la bâtisse et donc forcément, voilà, le confinement leur laissant assez de temps, le père de famille tente de construire un atelier dans la cave.
Là,
et pour mettre à niveau le sol, il faut déblayer un peu de terre battue. Et là, ben, ils sont tombés sur un os.
C'est le cas de le dire.
Quand Cécile voit son compagnon avec un os à la main, elle est un peu effrayée.
Mais qu'est-ce que tu fais avec un os?
Bah, il me rassure en me disant que ça doit être un chien. C'est vrai qu'au début, on ne sait pas.
Un crâne humain.
Mais bon, rapidement, ouais, ils ont déterré plusieurs os, des dents et un bout de crâne humain.
C'est merveilleux.
Bon, la petite Cécile, elle dit « Mon copain avait la tête d'un gamin content. Son rêve de devenir archéologue était en train de se réaliser. » C'est un peu glauque, quand
même. Moi aussi, j'aurais quitté.
Bon, par la suite, deux policiers sont venus faire appel à la police scientifique et au procureur et poser les scellés. Hein. Donc,
Allez, adieu. Fini l'atelier de la cave pendant
pas d'atelier.
Le confinement. C'est fini.
Et donc, pour l'instant, il est difficile de savoir à qui appartiennent ces ossements, d'autant que les laboratoires d'analyse sont un petit peu ralentis par le confinement.
Ouais, oui.
Ils ont quelques hypothèses, peut-être un ancien soldat de la Première Guerre mondiale ou alors un religieux du monastère du XIIIe siècle sur lequel est construite la maison. Pourquoi pas.
Oui.
Mais bon, c'est sûrement quelque chose d'assez ancien. Ne parlons pas de meurtre tout de suite et de drame. On ne sait pas.
C'est pas faux. On va parler de déconfinement.
Ah, c'est pour bientôt ?
Bah, pas du tout. Alors, les experts médicaux de la société PH Expertise donc, préconisent un déconfinement progressif par tranche d'âge, en commençant par les moins de 65 ans. Ça va, ouf. Qui ne serait pas à risque, donc, a expliqué ce jeudi sur France Info le docteur Martin Blachier, donc médecin et cofondateur de cette société. Après 20 jours de travail, PH Expertise a réalisé un modèle capable de simuler la meilleure stratégie de sortie du confinement. Il a expliqué ça, donc, jeudi 2 avril. C'est un déconfinement progressif par tranche d'âge qui permet d'abord de protéger les personnes plus à risque de se contaminer et d'aller en réanimation. C'est la stratégie qu'utilise la Suède, par exemple. Voilà, il faut que les gens les moins à risque sortent, s'immunisent, pour ensuite que les gens plus à risque puissent sortir au sein d'une population qui est déjà immunisée.
Est-ce qu'on est obligé de les faire sortir ?
À votre avis, pourquoi moins de 65 ans ? Bah parce que c'est tous ceux qui sont pas à la retraite, en fait.
Ouais, c'est voilà, exactement c'est ça. sans qu'il y ait en fait un pic de... un nouveau pic d'épidémie, en fait. C'est surtout ça l'intérêt. Donc 2 ou 3 mois de confinement supplémentaire pour les plus de 65 ans, c'est la vraie question. Est-ce que ça va passer ou pas même auprès de la population ? C'est un peu compliqué. Et là, ça voudrait dire que voilà, nous, on sort bientôt, mais eux ont encore 2-3 mois de confinement. T'imagines ? C'est monstrueux. Donc imaginons que nous, on sort à partir du 15 avril. Eux, c'est dans 2-3 mois, quoi. Bisous. Allez. Donc, dès le premier pic épidémiologique et épidémique dans lequel on est en ce moment sera passé, quand les services de réanimation commenceront à être moins surchargés, soit à partir du 15 avril, d'après les projections, c'est là qu'il faudrait commencer à déconfiner les gens. Les médecins estiment qu'on peut également inclure d'autres personnes à risque dans la population dite fragile et donc confinée plus longtemps. On sait par exemple que l'obésité, l'hypertension et sont des facteurs à risque qui exposent donc à avoir une forme plus sévère de l'infection Covid. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, reprenez toutes les recettes du haut dont je vous ai cité. Vous bouffez ça pendant jusqu'au 15 avril. Normalement, vous finissez avec un IMC dans le niveau obèse et vous ne sortez pas de chez vous. Vous restez confiné 2-3 mois de plus. La classe ou pas ? C'est la technique. Moi, je reste chez moi, même si le confinement est levé. Pas envie de retrouver les cons de mon entourage, dit Toufik. C'est pas faux.
Non, mais de toute façon, ils vont voir avec la Chine, là, puisque la Chine risque ce pic-là avant nous, deuxième vague.
Donc, le problème de la Chine, c'est qu'on peut pas se fier.
Un peu à gauche, quoi.
Bah ouais, mais le truc, c'est qu'on peut pas se fier à ce que dit la Chine, quoi. Parce que là, franchement, maintenant, tout le monde a des doutes sur le nombre de morts annoncés. Fin...
C'est même pas des doutes, c'est vérifié, en fait. Enfin,
oui, c'est complètement débile.
C'est un peu du jot.
Tu peux pas te dire qu'il y a eu que 3300 morts, quoi. Chagara.
Alors moi, je vais vous parler d'une histoire qui m'a beaucoup fait rire.
Oui, tout à l'heure, quand t'es en train de lire le truc, t'étais mort de rire.
Oui, j'ai trouvé ça très drôle. C'était un chercheur australien. Alors bon, j'ai des doutes quand même sur le fait qu'il soit réellement chercheur, ce monsieur, mais on va croire l'article, hein, qui a voulu travailler donc sur le coronavirus, mais plus exactement sur une solution pour, comment dire, pour se protéger un petit peu, pour respecter les gestes barrières, hein, une espèce de geste barrière à lui-même, tu vois.
Ouais.
Alors, il planchait sur un collier, en fait. Pour éviter la propagation, donc c'est-à-dire un colis qui te prévient quand tu approches tes mains trop proches de ta figure.
Ouais.
Voilà, donc l'histoire aurait pu très mal finir. Donc ce chercheur australien a décidé de consacrer ses journées à la recherche d'une solution.
Ouais.
Pour l'épidémie, voilà, pour combattre l'épidémie du Covid-19. Donc il est arrivé à imaginer un collier capable d'avertir celui qui le porte dès lors que ses mains sont un peu trop proches de son visage. Et risque donc, après avoir touché différentes surfaces potentiellement porteuses du virus, de te contaminer.
D'accord.
Je pensais qu'en construisant un circuit avec ce composant capable de détecter les champs magnétiques, combiné à des aimants que l'on porterait autour du poignet, ce collier pourrait déclencher une alarme à chaque fois que la main est trop proche du visage.
Ok, jusque-là ça va.
Voilà. Mais ne disposant d'aucune expérience ni expertise dans la construction de circuits ou d'objets, le chercheur a vu son invention tourner au drame. Alors, avant le drame, quand même, déjà, il s'est un peu chié, parce que ça a eu l'effet inverse de celui attendu.
What ?
Il a créé un collier qui sonne sans arrêt, à moins que l'on approche sa main de son visage.
En fait, c'est vrai, il a inversé le process, quoi.
Voilà, donc déjà, pour l'instant, il s'est retrouvé bien emmerdé. Ah oui, il est astrophysicien, 27 ans, voilà. Donc un peu déçu, voilà, il est obligé de mettre la main près du visage tout le temps, il dit, c'est, voilà, c'est l'inverse que je voulais faire. Donc il a décidé de laisser tomber. Et alors que l'ennui le gagnait, il s'est mis à jouer avec les aimants de son invention ratée.
Oh non.
Ouais, là c'est là que
c'est
le drame
bis.
je ne comprends pas ce qui lui passait par la tête. Sûrement un aimant.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Je les ai clipsés sur mes lobes d'oreilles, puis je les ai clipsés sur une narine, et ouais, ça a mal tourné lorsque j'en ai clipsé deux autres dans mon autre narine.
Ok, non, donc mais... il clipse sur une narine, ok, puis il a voulu clipser sur l'autre, et là ?
En retirant les deux aimants placés sur l'extérieur de ses narines, les deux autres qui étaient à l'intérieur se sont collés.
Oh putain, à l'intérieur !
Voilà.
Le con !
Et la solution qu'il a trouvée sur internet n'a fait qu'aggraver la situation. Parce qu'attends, c'est pas fou, il s'est dit, bête.
Sur internet.
Sérieux ?
Non mais c'est assez dingue. Franchement, tu te demandes ce qu'il dit. Franchement, c'est...
Il les enlève et clac.
Après avoir lutté 20 minutes, j'ai cherché une solution sur Google et j'ai trouvé un article rédigé par un enfant de 11 ans qui avait eu le même problème.
Ah oui.
Il s'est quand même basé sur la réponse d'un enfant de 11 ans.
Oui, mais bon, si la solution est bonne, il n'y a pas d'âge pour être un ingénieur.
Donc la solution, c'était de mettre des aimants à l'intérieur pour compenser l'attraction créée par les deux autres. Mais en essayant de les retirer, ils se sont accrochés ensemble. Et tous les aimants se sont retrouvés coincés dans mes narines. Bon, ben là, il n'y a pas eu le choix, il s'est retrouvé aux urgences.
Oh mon Dieu.
Oh, donc sur place, les médecins ont d'abord anesthésié son nez à l'aide d'un spray avant d'en retirer tous les aimants. Les médecins ont trouvé cela assez drôle. Ils ont dit que c'était une blessure de confinement et d'ennui.
Oui, tu m'étonnes.
Et donc il a conclu qu'à l'avenir, il trouvera une autre activité pour s'occuper.
Oui, tu m'étonnes, jouer des aimants. J'avoue que ça m'aurait peut-être traversé l'esprit de me mettre les aimants sur le nez, tu sais, pour faire un piercing au nez. Peut-être pas les deux en même temps, tu vois, mais... Ou tu sais, une fausse boucle d'oreille, ou j'en sais rien.
Confiné ou confiné ?
Confiné. Ok, c'est merveilleux. Moi, je vais vous parler de Donald Trump. Vous vous souvenez, Trump, début de la crise.
Confiné ou confiné ?
Ouais. Donc, il y avait énormément de réactions suite à ses propos tenus le 24 mars, hein, où il y avait déjà quand même 46 500 personnes qui étaient contaminées et il y avait déjà 590 morts aux États-Unis. Trump qui déclarait à la chaîne Fox News qu'il se réjouissait du retour à la normale normale pour Pâques. En gros, ça ne serait pas super pour que toutes nos églises soient remplies. Hein. Nous avons des églises pleines à craquer aux quatre coins du pays. Je pense que ce serait une période magnifique, avait-il assuré. Je vous en ai parlé d'ailleurs, hein, de ça, je crois, dans un déclat. Mais D'une semaine après cette déclaration, moins d'une semaine pardon, après cette déclaration surréaliste, donc Donald Trump a radicalement changé de ton. Lors d'une conférence de presse depuis les jardins de la Maison Blanche, le président américain a mis en garde contre toute précipitation, prolongeant les recommandations du gouvernement jusqu'au 30 avril, de confinement évidemment, d'éviter les rassemblements. Le lendemain, il demande à ses concitoyens de se préparer à des semaines très très douloureuses face à la pandémie. « Je veux que chaque Américain soit prêt pour les jours difficiles qui nous attendent », annonçait-il. Cette nouvelle l'a vraiment chamboulé. Alors quelle nouvelle l'a chamboulé? Ben, tout simplement, un de ses meilleurs potes qui est tombé malade et qui a fini dans le coma. Voilà, c'est Stanley Shera, donc magnat de l'immobilier de 78 ans, ami de longue date de Trump, qui se rendait régulièrement à la Maison Blanche et tout ça. Bref, il a chopé le Covid et il a fini dans le coma. Donc ça a bouleversé Trump. Voilà, et il en est même au point de dire que la campagne présidentielle n'a plus d'importance pour lui. C'est ce qu'il fait maintenant qui va déterminer s'il sera réélu ou pas. Donc maintenant, il a décidé de faire du Covid son cheval de bataille. Hein. Donc il faut savoir que là, déjà, jeudi, on était à 4700 morts. Aux États-Unis, il y en a eu 1000 de plus, je crois, aujourd'hui. Voilà. Et plus de 200 000 personnes contaminées. Donc c'est, voilà, c'est un truc de malade. Et lui, en fait, il disait « Oh, mais je m'en fous. » Et dès qu'il a vu que ça touchait aussi les gens riches et donc ses potes... Ouais, c'est ça, c'est 333 000 aujourd'hui aux US. Ouais. Dès qu'il a vu que ça touchait aussi ses potes et ça touche aussi les riches, qu'il a fini dans le coma, il s'est dit « Oh, putain !» Et donc, il a complètement changé son fusil d'épaule. Mais c'est bien, au moins, il a réagi.
Ouais. Bon, sur ce... Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis.
Ça prouve à quel point il est con, en fait. Il faut qu'il y ait ça pour qu'il réagisse.
C'est... Mais oui. Exactement. Exactement. Sur ce, on va passer au moment où il faut coucher les enfants. Tous les gens mineurs doivent quitter tout de suite cette émission. Puisqu'on va passer à la minute aubergine. Passe mieux en lubrifiant. Et ça passe mieux en lubrifiant, pourquoi, Chagara? Parce que aujourd'hui tu nous parles de...
La minute abricot.
Pêche.
Donc aujourd'hui, donc la semaine dernière, j'ai fait un dossier sur la fellation. Ce soir, ce sera un dossier sur la sodomie.
D'accord.
Pourquoi tout de suite on rigole?
Parce que t'as...
Mes dossiers sont très sérieux, par contre.
Tu as bien fait de commencer par la fellation la semaine dernière et maintenant on passe à la sodomie plutôt que l'inverse.
Oui, oui, je préfère, personnellement.
C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Donc vas-y.
Alors... vous allez sûrement beaucoup rire pendant cette rubrique, mais moi je vais rester sérieuse jusqu'au bout et je vous laisserai vous moquer.
Ok.
Tout d'abord un peu d'histoire. L'origine du mot sodomie provient spécifiquement de la ville de Sodome, hein, latin Sodomia, dérivé de Sodome. Selon la Bible, cette contrée était un lieu de débauche et de perversion, et donc elle a été détruite par Dieu. À cette époque, le terme sodomie ne désignait pas exclusivement la pénétration anale, mais c'était toutes les pratiques sexuelles réprouvées.
Ah. Toutes.
Toutes. Un historien explique que même si l'interprétation de la destruction de la ville de Sodome n'est pas immédiatement liée à la sodomie, et va au fil des siècles comprendre que si cette ville a subi une punition divine, c'est bien que le péché de sodomie est horrible à Dieu. C'est plus principalement la sodomie,
ouais,
mais c'était...
C'était
principalement les rapports homosexuels, etc. Mmh. Un peu plus tard, dans l'Antiquité grecque et romaine, la sodomie n'était pas particulièrement taboue. Elle était même pratiquée assez librement. Elle illustrait les rapports de puissance et de soumission entre les personnes qui s'y adonnaient. Il y avait la personne qui sodomisait, active, et la personne qui recevait la sodomie, la passive.
Les fameuses de la semaine dernière, déjà.
Voilà, exactement.
Comme pour la fellation.
Exactement. Ainsi, un homme qui en pénétrait un autre manifestait sa puissance, en termes de statut social, mais aussi d'âge. Généralement, la personne dite passive était plus jeune.
Donc, t'écoute attentivement.
Hein. Ouais, je vois ça. Oui, s'il oui. n'était pas franchement valorisant de se faire titiller le pôle extérieur à l'époque de César,
la le pôle extérieur.
Le pôle extérieur.
Le pôle extérieur. C'est le printemps, le pollen, tout ça. Le pôle extérieur. Alors, ça c'est pas mal. Quand tu vois une abeille butiner une fleur, tu peux dire qu'elle se fait faire le pôle extérieur, en fait, c'est ça.
C'est ça.
Vas-y, je te laisse continuer.
Donc comme c'était pas très valorisant, la sodomie a été interdite au Moyen-Âge, en France, mais aussi en Angleterre, ou encore au Canada et aux États-Unis.
Ok.
Et donc le pays de l'oncle Sam, quand même, a fait ça assez longtemps, parce que la version pour cette pratique a duré jusqu'en 2003, mm-hmm. avec la légalisation, à la législation anti-sodomie, donc qui condamnait toute relation sexuelle non reproductive.
Ah oui, donc, mais la fellation aussi, c'est non reproductif.
Voilà, ouais. toutes ces pratiques, complètement.
Touche tardée, ces gens.
Et donc, paradoxalement, enfin, moi je trouve que c'est pas vraiment paradoxal, mais bon. Paradoxalement, selon une étude menée par Pornhub, c'est aussi en Amérique du Nord que les vidéos de sexe anal seraient les plus recherchées.
Bizarrement.
Bon, moi je trouve pas ça si paradoxal, forcément. Tout ce qui est interdit, les gens sont plus intéressés.
Bizarrement.
Mais pourquoi tant de haine ? Eh ben, c'est principalement à cause de l'homophobie. Cette pratique est largement associée à l'homosexualité et donc aux nombreuses injonctions liées à cette orientation sexuelle qu'on a pu connaître et que malheureusement on connaît encore.
Culé.
Au même titre qu'à l'Antiquité, vous remarquerez que notre société n'aime pas trop les changements un peu brutaux. La personne qui reçoit la pénétration est encore souvent perçue comme passive, voire soumise. Et cette vision est d'autant plus dure lorsqu'il s'agit d'un homme.
Hein. Oui, forcément, parce que lui, il pourrait sodomiser, mais en plus, il se fait sodomiser, donc du coup, forcément, t'as cette vision de...
être soumis, quoi.
C'est ça,
bah exactement. Ouais, voilà, ça remet en cause la représentation traditionnelle de la masculinité.
Ouais.
Et ça fait souffrir cette bonne vieille virilité. Et notre cher ami, le patriarcat. Et d'ailleurs, pour constater que des noms d'oiseaux tirent l'origine de la sodomie, comme vient de nous dire Cédric, enculé.
Et voilà.
Alors, malgré quand même son lot de tabous et d'idées reçues, la sodomie reste appréciée, selon une enquête sur la sexualité en France.
Ça reste apprécié, hein, malgré le fait que ce soit interdit et décrié.
Non, mais ça c'était jusqu'en 2003. On revient. C'est bon, on a évolué depuis.
Ah, depuis 2003, mais ça fait pas beaucoup, ça fait 17 ans.
Oui, mais maintenant, en tout cas, c'est plus interdit. Mais ça, c'était que pour les pecnos d'Américains. Chez nous, c'est autorisé depuis un peu. Hein. C'est bon.
C'est vrai. Comme dit Lydrix, en plus, quand tu dis no homo, c'est bon, tu peux pratiquer.
Ah là, c'est bon. Là, t'as le droit.
Si, vas-y, tu peux me sodomiser, mais no homo. Hein.
No homo. Hein.
Ouais, c'est bon.
Donc, dans une étude en France, 37% des femmes et 41% des hommes auraient déjà pratiqué cette position dans leur vie. Mmh. Sa pratique régulière ne concerne cependant...
30 et 40, c'est ça que t'as dit ?
37 des femmes et 41.
Ah d'accord, ok.
Sa pratique régulière ne concerne cependant que 9% des femmes et 14% des hommes.
Ok.
Mais les femmes qui acceptent de pratiquer la sodomie et qui prennent du plaisir sont pas nombreuses. 25% d'entre elles avouent avoir déjà tenté l'aventure. Parmi les 25% d'entre elles qui avouent avoir déjà tenté l'aventure, seulement 10% ont réellement apprécié.
D'accord, les autres c'est des... non, ça fait mal.
Et ben, d'autres refusent encore, et celles qui ont testé mais qui n'ont pas apprécié, ben voilà, elles ont juste pas apprécié.
D'accord, donc elles refont plus quoi.
Alors, maintenant parlons un petit peu éducation sexuelle, tout ça, la sodomie en pratique.
D'accord, ok. Ah vas-y, montre-nous, comment tu fais ? Ah, vous avez pas les images, mais moi je les ai.
Oh, c'est dommage.
C'est
une émission audio.
Moi je les ai, alors montre-moi, vas-y.
T'es con. alors déjà, la sodomie est assez tabou, hein, parce que, comme vous vous en doutez, c'est par là qu'on fait caca.
Ah bah oui, ah bon, effectivement, c'est bien dit.
Et tout le monde fait caca, hein. Voilà, vous pouvez rire, vous pouvez...
Non, les femmes, ça fait pas caca.
Si, si,
ouais, c'est ça. Caca, très si, bien. Si. Tout le monde fait caca, et même Beyoncé, elle a déjà la diarrhée. Sûrement. Enfin, j'ai pas vérifié.
T'as des infos quand...
Donc si ça peut rassurer certaines personnes, il est possible d'effectuer un lavement Mais par contre,
vous savez.
Ouais. Par contre, c'est quand même à éviter de à reproduire trop fréquemment parce que ça peut quand même pas mal abîmer les parois, qui sont quand même assez fragiles.
Ok.
Donc c'est quand même à éviter. Mais normalement,
ah,
si
la
vous êtes
pas les poires à lavement.
Non, si, le lavage.
Non, non, les poires à lavement. Pas la sodomie.
Ah ouais,
bah pas
oui.
Tout suivi.
Ah bon,
oui.
Quand j'étais jeune, j'en ai subi des poires à lavement. Je peux vous dire.
Et ben bah, ça peut
grave.
Bien abîmer. À part si on a des pathologies, bon forcément qui nous obligent à subir ces lavements parfois à répétition. Mais quand c'est réalisé sans raison, comment dire, de santé
médical.
Valable.
Médical.
Voilà. Faut éviter de le
mais
faire
je vous rassure,
avec
c'était
trop
médical,
de.
Hein, c'était pas mes parents qui le faisaient pour le plaisir. Hein.
Si, si. Il
Après,
faisait
y a
pour
des...
la sodomie, Rocher.
Il y a quand même pas mal de personnes qui le font aussi. J'ai découvert ça en menant mes recherches. Mm-hmm. Toutes ces espèces
je
de naturopathes.
Je veux pas voir l'historique de tes recherches.
Non, mais tu peux. tous les gens qui sont très branchés, naturopathie, etc., qui pensent qu'il faut absolument se purifier de l'intérieur, pratiquent des lavements très profonds fréquemment. Il a été prouvé quand même scientifiquement que ça n'avait aucun intérêt, ça ne purifiait personne. Mais
après le gros, ouais, si, il y a un intérêt parce que eux, ils se font tellement enculer quand ils vont dans leur magasin qu'ils leur vendent des pierres, des je sais pas quoi là.
Il faut qu'ils soient préparés.
Il vaut mieux qu'ils soient préparés, ouais.
Il faut savoir que normalement, il n'y a aucune raison que des selles soient stockées dans le rectum si vous allez à la selle de manière classique.
Bah oui.
C'est stocké plus haut.
Donc, allez chier avant une lastodomie et t'es tranquille.
C'est bon.
Et c'est suffisant, vous faites pas chier. Hein. Et nous faites pas chier.
C'est ça.
Alors, ce qui est aussi important à réaliser, hein, j'ai fait vraiment toutes les étapes, c'est que la zone n'est pas naturellement lubrifiée comme peut l'être par devant, comme on peut l'appeler. Donc la zone vagin est naturellement lubrifiée, mais pas la zone de l'anus. Donc il faut utiliser... avec beaucoup d'intérêt le lubrifiant et de préférence un lubrifiant à base d'eau.
Okay.
C'est quand même mieux pour
ah
la
ouais.
paroi. Ouais.
D'accord.
Note à qui.
Ouais, ouais.
IP.
Ça, après, c'est en fonction des goûts de chacun, hein, mais voilà, il y en a de très intéressants sur Amazon. Vous trouverez votre bonheur.
C'est voilà. Ça.
Après, bien sûr, ce qui est important, toujours la masturbation. Hein. On n'y va pas directement d'un coup sec.
S'il vous plaît.
T'es pas obligé de faire les gestes
avec
en même
gravier.
Temps.
Non, je fais rien du tout.
Ça, c'est ça, il le voit pas, mais moi je le vois.
Non, c'est surtout que c'est très délicat à cet endroit-là, donc on évite quand même de créer des saignements, des blessures. Faut éviter aussi, par exemple, coupez-vous les ongles, c'est important.
Ok, élimez-les aussi.
Bah ouais. Oui, il peut y avoir assez facilement des lésions, des coupures.
Des lésions.
Des lésions.
Des liaisons, c'est autre chose.
Vas-y,
Et ensuite, ah oui, pour la protection. Donc il faut savoir quand même, c'est une zone très fine où, qui est donc très sujet aux MST, aux transmissions de MST. Mmh. Donc, il est important de se protéger efficacement, même pour la pénétration vaginale, hein, c'est important.
Mais je suis trop jeune pour entendre ça, et Charlie.
Bah ouais, mais on avait dit que...
On avait dit que dimanche, c'était sodomie.
On le ferait.
Non, on avait dit surtout aux mineurs de ne pas se pointer.
C'est ça. Du coup, tu peux dire à ta copine de couper l'émission, Charlie, s'il te plaît, merci. Du coup, continue. Alors, tu disais, alors on lubrifie, on se protège, ok, très bien. What else?
Le protips aussi, hein, à éviter. On peut faire dans le sens vagin-anal, mais pas dans l'autre sens.
Ah oui, c'est,
non.
C'est important.
Faire une sodomie, ensuite,
Parce que même si ça peut paraître propre et si vous paraissez être ressorti non souillé. Et ben malheureusement cette zone n'est quand même pas la plus propre de la terre et les infections bactériennes.
Tu passes à la douche avant quoi.
Voilà, soit tu passes à la douche avant, soit tu changes de préservatif.
Ou en ce moment avec un petit coup de gel hydroalcoolique et c'est bon.
Ne donne pas des mauvaises idées aux gens. Déjà les gens mettent du gel hydroalcoolique sur leur chat, qu'ils en mettent pas sur leur chatte.
Ouais, c'est ça.
Ce serait con.
Ni sur leur queue d'ailleurs.
Éviter la fellation après, dit Draxas aussi. Mais oui, c'est comme ça que commencent les épidémies de gastro, Draxas.
Exactement. Les infections urinaires aussi, tout ça, donc bon.
Tu peux enfiler après... 3 capotes pour pas salir celle du milieu.
Non, comme dit Ghost Dragon, tu fais anal, buccal pour nettoyer et vaginal, c'est parfait.
Oh. Sympa, quoi.
Oh là 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 là.
Bon, moi, je conseillerais quand même le buccal, vaginal, anal. Après, c'est chacun ses goûts.
Buccal, vaginal, anal. Ok, je note l'ordre, hein, pour pas me tromper tout à l'heure. Ensuite,
après,
je note tout, là.
Ouais, après, bon, faut quand même laisser à la délicatesse masculine de trouver les bons trous. Ça, c'est une autre affaire.
Alors, c'est masculine, déjà. C'est pas trop sûr que ça aille ensemble.
Ça va, ça va, ça se trouve.
Ça se trouve.
Ça se trouve, ça se trouve. Ouais, faudra faire un schéma. Alors après, je vais vous donner quand même quelques positions assez pratiques. Bah, la plus connue reste quand même la levrette.
Oui.
Bah ouais.
Voilà, c'est la plus évidente, qui permet une stimulation très efficace du clitoris en même temps. Comme ça, deux en un.
Deux en un.
Bon, après, bien sûr, si vous souhaitez voir votre partenaire, parce que bon, c'est le problème de la levrette, hein, on a toujours l'andromaque, hein, là où la nana est sur... Bon, je parle en relation hétérosexuelle, hein, je m'excuse, mais je me base aussi quand même sur mes expériences, donc je suis désolée si je ne suis pas friendly, homo, gender, etc. Friendly, donc voilà.
Donc, comme Ghost Dragon, j'allais dire le miroir, sinon, si vous voulez voir votre partenaire.
C'est vrai. Aussi, vous pouvez faire installer un miroir... Pour voir votre partenaire. Mais sinon, la position de l'andromaque ouais, avec donc votre partenaire au-dessus, aussi, soit face à vous, soit dos à vous. Bon, là, pour le coup, vous ne la voyez pas moins intéressant. Et il faut savoir qu'apparemment, c'est une des positions les plus risquées pour la...
Péter le frein.
Je ne sais pas si ça marche... En... Ouais, voilà. Je ne sais pas si c'est le cas pour l'anal, mais en tout cas...
Oui, aussi, oui.
Voilà, donc, oui. À faire avec beaucoup de délicatesse, quand même. L'andromaque. Toujours. Toujours. Non, en andromaque inversé, ce qu'ils appellent la balançoire.
Oui.
Ok.
On fera des schémas. Hein.
la non, position. Vous cherchez sur Google, vous dites que c'est parce que tu devais entendre ça dans une émission, ça devrait passer.
Y a aussi la position de la cuillère, qui peut être une position très tendre. Voilà. Oui. Et tout en douceur.
Ok.
Et puis, ben, c'est tout. Voilà,
tu
après
as déjà pas mal.
Tous tes conseils.
Bah ouais. Après le but de toute façon, c'est que chacun se fasse plaisir avec consentement, bien évidemment.
C'est voilà. Toujours mieux. C'est toujours mieux avec consentement. Ok. Eh ben écoute, c'est parfait. C'est parfait tout ça. Je finissais de prendre mes notes. Hein. Donc c'est merveilleux. Sur ce, eh ben figurez-vous qu'on est déjà à la fin de l'émission.
Et oui,
émission raccourcie cette semaine. Voilà, c'est un peu la dèche en termes d'actualité what the fuck joyeuse, puisque les gens sont confinés chez eux, donc ils ont du temps pour faire des conneries, mais moins que quand ils pouvaient sortir, quoi, en fait.
Non, et puis on est raccourci d'un membre aussi, donc.
Et on est raccourci d'un membre. Hein. Et la semaine dernière, il y avait aussi le docteur Fontagneux, donc, du coup, même ça faisait beaucoup plus de gens qui intervenaient, donc voilà.
Ouais.
Bon, en tout cas, merci la chatroom d'avoir participé. Merci l'équipe aussi. Donc, Aki, Chagara, Rusher et Chagara. Non, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave.
Merci à toi.
Deux fois. Une fois par devant, une fois par derrière, du coup. Donc, voilà. Merci donc la chatroom d'avoir participé. C'était cool. N'hésitez pas, si vous nous écoutez en audio... à vous abonner sur la chaîne Twitch, vous pouvez venir sur Twitch là où on enregistre le dimanche soir, vous abonner si vous voulez nous soutenir, sinon vous avez aussi notre Tipeee, tipeee.com/studiorenegade, sur lequel vous pouvez nous payer un café pour bénéficier de tout ça et puis voilà, pour bénéficier de l'accès au Slack, continuer à discuter de sodomie si vous voulez avec nous, posez toutes vos questions à Chagara sur ses expériences personnelles, elle vous donnera des détails, donc voilà. Sur ce, On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On en saura plus sur est-ce que le confinement va durer au-delà du 15 avril. Évidemment. En attendant, si vous étiez en train de réviser pour le bac, vous pouvez arrêter, puisque de toute façon, vous le passerez pas. Et ouais. Bon allez, sur ce, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ciao.
Bye bye.